You got your first real switchblade. You always liked the way it felt. Cold and true, designed for what you lose. You had the best witty comebacks. Instincts of what you want made of. Deprived youth, you love all that you choose. You got your first real switchblade. You always liked the way it felt. Cold and true, designed for what you lose. You are all that you choose.
Mais c'est à moi là, peut-être que je me presse un petit peu moi. Attends, on va allumer ça, on va couper la musique, voilà, mettre la grosse caméra. Là c'est moi, ok. Je reçois des petits messages de boulot. Oh oh! Ok, super. Oh, j'ai l'œil. J'ai l'œil. J'ai l'œil du tigre. Là, j'ai croisé une amie là récemment et il se trouve que mon amoureuse Hélène a travaillé, avant de travailler dans l'horlogerie, elle a travaillé dans la joaillerie et donc elle m'a fait découvrir l'univers des bijoux, voilà, que je ne connaissais pas du tout avant, de même que celui des montres. Et donc du coup, bah, maintenant je regarde les bijoux des hommes, des femmes, voilà, puisque Hélène m'a initié à ce bel univers. Et donc là, je regardais ce matin une photo d'une amie, une photo récente. Et puis, à un moment, je regarde sa bague. Très belle bague. Voilà. Avec une jolie pierre, très joliment montée, de façon un peu originale, un peu moderne. Il y a Blue344 qui travaille dans ce secteur, qui dit que c'est mon métier, c'est un très beau métier, c'est un magnifique univers, c'est vrai. Et je vois la bague vraiment. Donc, quelque chose d'assez original, assez moderne, voilà, avec une très belle pierre. Et puis, et donc, j'envoie un petit texto à l'ami qui vient de me répondre, disant « Dis donc, belle ta bague !» Et l'ami en question me répond que je voulais te l'annoncer discrètement, mais cette année sera celle de l'engagement pour moi. Hey, l'œil, mec, j'ai l'œil. Maud Guillot, j'ai l'œil aussi pour voir ce 17e mois d'abonnement. Merci Maud, c'est super. Capra Ro Max, merci pour ce 8e mois d'abonnement. Camille Nota Girl, merci pour le 18e mois. Et voici un nouveau badge pour toi. Et je le vois, Camille, je le vois, ton petit badge là. Ton nouveau petit badge des 1 an et demi d'abonnement. Avec ce grain de café. Ah, oh, il y a Solal qui débarque là. Oui, mon chéri, je suis là. Merci à tous les trois pour vous. Tu t'en vas? Où est-ce que tu vas, mon petit garçon d'amour? Tu vas au Monoprix? C'est tous les matins, tu vas au Monoprix? Qu'est-ce que tu vas faire au Monoprix? Alerte enfant, vite, 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 Samuel. Hop. Qu'est-ce que tu vas faire au Monoprix? Tu vas aller voir les nouvelles morts? Tu vas aller voir les jouets? Mais c'est tout ce que tu fais au Monoprix, tu regardes les jouets, tu fais pas des courses. Tu fais Pikachu aussi? Et quoi encore? Merci Axel CFC pour ce prime. Merci, ton soutien c'est cool. Tous les matins il va au Monoprix avec la nounou Solal. Mais en fait je... Oui, il y a Ronny Fleur de Paix qui pose la question. Salut Eden Blaster. Oui, je crois qu'il va au Monoprix tous les matins. He told me he's going to Monoprix. Oui? Ok, avec plaisir, mon chéri. Bonne promenade au Monoprix. N'achète pas tout, hein? Ok?
Tu vas pas tout acheter, tu.
De... Tout ça? Mais j'aurais pas assez de subs, chouchou. Ah, je m'inquiète pas trop. Ok, d'accord. Je t'aime très fort. Hey, y a Rodelia qui t'attend. See you. À tout à l'heure. J'ai le droit à un bisou? Tu me fais un bisou, prout?
Ah, j'adore.
À tout à l'heure, see you, Rodelia. Il me fait des bisous, prout. Ah, j'adore. Il fait des petits bisous proutes, mais il s'applique. Il est trop mignon. Je sais pas si son frère qui a dû lui montrer ça, je suppose. Pardon, je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans mon... J'ai acheté une rallonge de casse pour... Genre, je crois que j'ai 7 mètres de rallonge pour l'émission du vendredi parce qu'on est assez loin de la table de mixage. Et la gestion du son par Joe. Du coup, j'ai 7 mètres de rallonge. Bah, du coup, quand ici, je suis à 1 mètre de la table de mixage, forcément, j'ai un petit peu de rab. Ouais, il a appris les bisous proutes avec son frère, je crois. Et il s'applique. Il fait en deux temps. Il fait un petit bisou, un vrai petit bisou. Il est super câlin, c'est super agréable. Il fait un petit bisou sur la joue. C'est en deux temps. Et après, genre une demi-seconde après, il fait son prout. J'adore. C'est pas le prout direct. C'est pas un bisou prout, c'est bisou prout, c'est en deux temps. Ok, pourquoi pas. Il y a petite Malouine en sucre qui nous demande de la force et du courage et qui nous dit: Samuel, souhaite-moi bonne chance cette semaine, j'essaie de séduire un beau jeune homme. Ok, on t'envoie toute la force qu'on peut. Ah, la petite visite de Solal qui met de bonne humeur. Allez, je vous lis un petit peu parce que vous aussi ça me met de bonne humeur. Merci de Dr. Brown pour le Prime, merci du soutien. Mick, merci Mick pour l'abonnement également. Petite Malouine en sucre, ah, j'avais pas vu que ton sub, merci, c'est adorable. Et à l'instant aussi, It's Mick, Mike, BRZ, merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Il a suffi de dire que Solal allait faire chauffer la carte bleue au Monoprix. Et vous m'envoyez plein des subs. Oh, gentil message de Falou FR qui est là pour la première fois peut-être, qui me dit: What? Monsieur Étienne fait des lives, c'est une agréable surprise. Qu'est-ce que tu dis de sympa? Enfin, quelqu'un qui partage avec toutes les générations son espérance. C'est adorable ça. Oui, je traînasse sur cette belle plateforme depuis quelques temps. Mais merci, merci de nous rejoindre, c'est cool. Nat nous a dit un peu plus tôt dans le chat, mais quelle était la nouveauté ce matin sur France Info? Je vous montre de quoi il s'agit. Et c'est vrai que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Je suis très très heureux de ce move sur France Info. Effectivement, hier soir, je publie ce tweet que je vous montre. Hop. Voilà. Hier soir, je publie ce tweet du nouveau demain matin dans la matinale de France Info. Ça s'appelle un teasing. Maud, je ne suis pas sûr de t'avoir remercié pour le 17e mois d'abonnement tout à l'heure. Merci Maud de Guillaume. Je ne suis pas sûr. C'est adorable. Et donc, j'annonce ça. Alors, certains partent sur plein de pistes. Le nouveau serait que j'arrête la matinale, par exemple, pour consacrer 100% à Twitch. Bah, c'était pas ça. C'était quoi les pistes? L'arrivée, il y a beaucoup de sourires. L'arrivée d'un nouveau stagiaire. Quoi comme hypothèse. La matinale autour d'une grande table et toute l'équipe prendra son petit déjeuner en direct et en pyjama. C'est pas mal, ça. De nouvelles informations, ce qui est assez drôle, d'ailleurs, parce qu'effectivement, c'est plutôt... ce qu'on est censé faire tous les matins. Chacun prend la chronique de son voisin de droite. J'ai bien aimé celle-ci aussi. Voilà. D'autres carrément des blagues de cul, pourquoi pas. Voilà. Et pas du tout. Voilà. Et la surprise, eh ben, je vous la montre tout de suite. Voilà. Du nouveau demain matin dans la matinale de France Info, c'était hier soir. Et donc, eh bien, la nouveauté, là, voilà. Et j'en suis très très fier et très très heureux. Voilà, Zora Ben Miloud, voilà, journaliste, excellente journaliste et fondatrice de France 24, que j'ai découvert en regardant France 24, voilà, quelques années déjà, que j'ai rencontrée parce que je trouvais qu'elle avait quelque chose en plus dans sa façon de présenter, d'incarner les informations, un mélange de rigueur et de douceur qui me plaisait bien. Et donc, Zora, j'ai suivi son travail, je l'ai rencontrée, je l'ai même invitée. Il y a Clamakin qui ne suit pas du tout, qui dit vite dans l'hebdo, que j'ai déjà invité dans l'hebdo Étienne, elle est déjà passée dans l'hebdo Étienne, voilà. C'était aussi une façon de voir comment, voilà, elle gérait le direct, et puis bon, voilà, j'étais très séduit, et du coup, eh bien, on l'a embauché. Voilà, et on l'a débauché de France 24. Donc je remercie nos confrères de France 24 de l'avoir aussi bien formé et puis de nous avoir laissé Zora partir vers nous, vers France Info. Donc on l'a débauché et on l'a embauché à France Info. C'était sa première matinale ce matin. Donc Zora est chargée des JT à compter de ce matin et je l'espère pour très très longtemps. Voilà, magnifique photo qui met extrêmement en valeur. J'ai choisi une photo où Zora était en valeur. En même temps, elle est en valeur sur toutes les photos. Et puis moi, je suis magnifique là, avec mes yeux totalement fermés. Voilà, donc c'est une très bonne nouvelle et j'étais heureux de la partager ce matin sur Twitter et avec les téléspectateurs de France Info. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu et puis on va démarrer. Hein. Ah, Sir Junkie se souvient, j'avais adoré quand elle était passée ici, c'est vrai. Bon, d'ailleurs, elle va revenir dans l'hebdo Étienne. Olivia85, qui est sans doute une habituée de la matinale, dit « Tu changes souvent de partenaire à France Info ?» En fait, oui. Ce qui s'est passé, c'est que, je vais être transparent avec vous, quand j'ai pris cette matinale il y a 6 ans, j'avais une excellente présentatrice de JT qui était Karine Bastorigis, Karine Bast, qui a été débauchée pour France 2 parce qu'elle faisait un super travail. Ok, après, on m'a proposé de travailler avec Johanna Giglia, que j'adore, qui est une femme formidable, journaliste exceptionnelle. Super présence, voilà, quelqu'un que j'aime beaucoup. Elle était tellement bien que on me l'a pris, on l'a mis sur France 2. Okay. Et puis après, j'ai eu d'autres présentatrices, notamment Clémence de la Baume, en fait, qui est partie en congé maternité. Voilà. Donc je l'ai perdue. Voilà. Et puis après, en fait, Clémence n'a pas été remplacée. Elle a été remplacée, mais pas par des titulaires. Quoi. C'était des remplacements en attendant de trouver. La remplaçante de Clémence. Et donc Zora Ben Miloud, là, qui travaillait déjà dans une autre rédaction, donc qui n'a pas pu venir comme ça tout de suite, en fait, c'est elle qui remplace Clémence. Clémence qui est revenue sur France après son congé maternité, mais qui, comme souvent d'ailleurs, en tant que jeune maman, n'a pas du tout envie de se lever à 2h du matin, ce que je peux comprendre tout à fait, et donc n'est plus en matinale. Et donc voilà, Zora, en fait, est la nouvelle présentatrice de JT. Comme ça, vous savez tout. Voilà, je remercie Nat du 05 pour ce très gentil 18e mois d'abonnement et voilà ton joli badge avec ce grain de café pour le 18e mois. Voilà. Haha, allez, je vous lis un petit peu encore un petit peu, puis je vais vous lire des choses. Je remercie aussi 3DAX pour le Prime, LTD XIT pour le 7e mois, Blue344 pour cet abonnement, Tobit, je ne sais pas si je prononçais pour le 15e mois, merci de votre soutien, vous êtes super cool. Ça, c'est l'effet Monoprix. Comme le dit Sir Chorao, très drôle. J'espère que Zora n'est pas trop bien pour ne pas être débauchée trop vite. Alors, j'ai pensé à ça ce matin. C'était sa première matinale et vraiment je l'ai trouvée à l'aise tout de suite. Voilà. En même temps, ce métier, elle sait le faire. C'est pas ici qu'elle va apprendre à présenter des JT. Elle a une belle expérience derrière elle. Là, c'est une professionnelle. Et effectivement, je l'ai trouvée bien tout de suite. Enfin, je l'ai trouvée exactement comme je pensais qu'elle serait. Et je me suis dit, on va me la piquer. Mais c'est normal. Les bons éléments, bah, parfois, ils sont débauchés. Donc, c'est la vie, c'est comme ça. Il n'y a aucun souci avec ça. Jules me dit, tu n'as que des présentatrices avec toi. Pour le JT, oui. Pourquoi ? En fait, moi, j'ai des chroniqueurs, des chroniqueuses. Hein. J'ai 4 chroniqueurs principaux, 2 garçons, 2 filles. On essaye de viser la parité. Et pour cette même raison, d'ailleurs, moi, je suis l'encorman. Donc, je reste là pendant toute la demi-heure, enfin, pendant 2h30. Je suis un peu le fil rouge. De cette matinale quoi. Et il y a un poste qui est très important aussi, c'est celui ou celle qui présente les JT, qui est là quasiment la moitié de la demi-heure, qui est aussi un visage très très présent. Donc on pourrait faire 2 garçons, hein. Je l'ai déjà fait d'ailleurs, mais c'est un peu bizarre en fait. Alors, en termes de parité, c'est plus que bizarre. Et donc c'est vrai qu'assez classiquement, si l'encoreman est un garçon, on va chercher une présentatrice de JT fille. Et inversement, mais en ce moment, tout bêtement quoi. Pour le coup, dans l'équipe, on a une parité totale en fait et parfaite entre les chroniqueurs et tout ça. Je trouve ça bien. Je trouve ça très très bien moi. Papa Crux, merci pour le 7e abonnement. Merci pour vos soutiens, vous êtes super cool. Chemical What the Fuck, ton petit message me fait bien plaisir. Alors, je vous lis un petit peu. Tu avais parlé d'inviter Bertrand Chameroy dans une hebdo. Il va venir, Bertrand. Il est super, super pris. C'est un mec génial. Il va venir dans l'hebdo. Mais alors, je suis content. Hein. Parce que alors, l'hebdo Étienne, là, je trouve, ça y est, on a commencé à trouver la formule. Là, c'est la 20... On vient de faire la 20e émission. Vendredi, on s'est régalé avec Étoile, avec Valérie Damido et avec Thierry Moreau vendredi. Dans le contenu, bon, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de monde aussi. Il y avait... L'audience était super sympa, même si l'audience n'est pas tout, comme je le dis souvent. Mais là, voilà, cette petite formule de mélange de journalistes et de streamers et de youtubeurs dans la même émission, pas des émissions 100% journalistes, pas des émissions 100% streamers, mais ce mélange, je pense que c'est la bonne formule, je pense qu'on l'a trouvée. Et les prochaines émissions, sauf une qui est full Twitch, YouTube, les prochaines émissions qui viennent le vendredi, donc l'hebdo Étienne, eh bien c'est, on va sur ce mélange de ces univers qui sont pour le coup mes univers, ceux du journalisme et de Twitch. Et ou de YouTube, voilà. Et on a bah, du coup de belles annonces à vous faire dans les prochaines semaines. L'émission de vendredi qui arrive là est top, l'émission dans 15 jours elle est top, l'émission dans 3 semaines je crois qu'elle est quasiment calée aussi, elle est topissime. Je suis super content. Allez, je vous lis un petit peu. Je remonte dans le chat en fait parce qu'il y a plein de gens qui ont écrit des messages sûrement très pertinents il y a un quart d'heure et je remonte en fait. C'est très frustrant en fait de se dire qu'il y a peut-être des gens qui ont écrit des trucs trop intéressants. J'allais faire une belle liaison et puis de pas l'avoir vu en fait. Merci Sbolsan pour ce 2e mois d'abonnement. Super le passage à Zach en roue libre, j'ai adoré. Merci Monsieur Caps, moi aussi j'ai passé un bon moment. Zach Nani, qui va venir bien sûr bientôt dans l'hebdo Étienne. Voilà, donc, ici 15 jours, Zach par exemple. Voilà. Allez, encore quelques messages. Oh oui, oh, je suis fier de cette connerie. Oui. Gareth me dit, j'ai vu ton tweet sur Zen, quelle émission de fou. Alors moi je suis très intrigué par cette émission là, Zen avec Maxime, tout ça. Je trouve que c'est vraiment très, très propre à Twitch, ce genre d'invention, d'OVNI, là, voilà. Ça, vraiment, ça me... Et donc, du coup, bah, je suis un petit peu ce qu'ils font, voilà, et notamment sur Twitter. Du coup, on a eu un échange de tweets avec Zach, c'était assez drôle ce week-end, je sais plus où on s'est dit ça. Ah oui, il faut que j'aille dormir. Hop. Qu'est-ce qu'on s'est dit avec Maxime ? Attendez, je vous retrouve le tweet. Ah oui, c'est ça. Alors, c'est en plusieurs temps. Hein. Voilà. J'aime bien ce qu'ils font, tous ces jeunes gens-là. Alors, c'est Maxime qui, ce week-end, annonce une nouvelle émission lundi. Tiens, je leur fais la pub, d'ailleurs. Nouvelle émission lundi. Est-ce la fin de Zen ? Alors, ça, c'est un joli teasing. Réponse. Donc, c'est ce soir à 20h, lundi 6 février. Voilà. Je vois qu'il y a des fans, hein. Il y a Yo Far Away qui dit Zen c'est dans l'esprit de la grosse émission. Sir John Keys, Zen c'est vraiment l'émission qui peut refaire m'asseoir en quelques minutes, c'est à pleurer de rire. Voilà. Et donc je vois ça et puis évidemment je me dis tiens, j'ai envie de dire une connerie quand même. Et donc il y a Maxime qui tease peut-être la fin de Zen ce soir. Évidemment on n'y croit pas trop. Et moi je réponds, je confirme que j'ai racheté les droits de l'émission. Zen va se poursuivre, mais sous une forme plus rigoureuse, plus travaillée. Hein. Toutes les blagues seront d'ailleurs écrites par les auteurs du dernier Astérix et Obélix. Voilà. Bon. Évidemment, c'est un tweet avec plein de conneries dedans. Mais qui a eu un certain succès. Du coup, il y a Maxime qui me répond n'importe quoi, parce que c'est un petit peu sa marque de fabrique et ça, j'adore. Et qui me répond, Samuel, vous avez volé mon iPhone à la gare Saint-Lazare le 14 mai 2017. Je ne vous le pardonnerai jamais. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Voilà, et du coup, on continue. Et moi, j'ai répondu, pas lu, plus ratio, plus les vidéos contenues dans cet iPhone seront désormais à disposition de la police. Voilà, on s'amuse bien. Voilà, je pense qu'on a 25 ans de différence tous les deux. Mais manifestement, dans l'humour, on peut se retrouver à un moment. Quoi. Voilà, ça, j'adore ce genre d'échange. Voilà. C'est drôle. Mais c'est pas mal ce qu'ils font. Hein. C'est pas mal ce qu'ils font, les chouchous. Voilà. Maxime et Grim, trop drôle. Ouais, j'aimerais bien faire des collabs avec les. Il faudrait que j'aie du temps et il faudrait que je prenne le temps de les contacter et puis de trouver la bonne idée. Mais je trouve que vraiment, ce sont des gens qui ont du talent, quoi. C'est sûr. Allez, encore un ou deux messages et puis on approche des 20 minutes là, on va faire un petit sommaire. Je remercie Wasp pour l'abonnement que tu offres à la commu et Kalindi pour ce 18e mois d'abonnement. Merci pour le message, un joli badge avec un joli grain de café pour toi, c'est notre nouveau. Oh, j'ai une nouvelle émote. Nouvelle émote animée que m'a fait Pépipin, qu'elle m'a envoyée cette nuit. Alors attendez. Comment, où est-ce que je vais vous le trouver ça? Je l'ai appelé comme ça. Ah, comment je fais pour le trouver? Comment on fait pour trouver une émote? Merde, je suis pas doué. Hein. C'est une émote animée. Ah zut, c'est une émote. Ah bah vous l'avez trouvé. Vous l'avez trouvé. Mais comment vous avez fait? Comment vous avez fait pour la trouver tout de suite? C'est incroyable, comment vous avez fait ça? Alors Pépin vient de faire ça cette nuit, voilà. Donc c'est petit Sam qui boit un café. Bon, ici c'est un petit peu la base, quoi. Elle est dans tes émotes, oui, mais alors du coup, moi je sais même pas. Elle est pas mal, que vous en pensez? Voilà, nouvelle émote. Alors c'est moi qui ai mis l'émote sur Twitch ce matin, mais je savais même pas où aller la retrouver pour la poster moi-même, en fait. C'est là où je suis pas très 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 très, très fort, quoi. Voilà. Elle est jolie, hein? T'es trop chou, hein? Voilà. Donc c'est notre deuxième émote animée avec celle du Red qui est jolie aussi. Voilà. Ouais, elle est sympa. Ça c'est Pépipin. Merci Pépipin pour ce super travail. J'ai l'impression qu'elle vous plaît bien. C'est cool. Merci beaucoup Matt pour ce waouh 18e mois d'abonnement. Filigrane pour ce ouais 18e mois d'abonnement. Ah ça me fait trop plaisir. 18e mois c'est le maximum. Hein. J'ai lancé la chaîne il y a plus longtemps que ça, mais j'ai ouvert les subs après, dans un deuxième temps, et donc ça fait 18 mois, on peut pas avoir plus que 18 mois d'abonnement sur cette chaîne. Peut-être que dans quelques années, on dira merci, petit dragon vert d'orage, merci Kikiplan pour la cinquième année d'abonnement, peut-être qu'on dira ça. Bon, en tout cas, les modes vous plaît bien. Hein, c'est cool. Ça me fait trop plaisir. Ouais. Bon, bah voilà. Bon, bah voilà, c'est tout. C'est le stream de ce matin. Je vais dormir maintenant. Non, on va faire une petite revue de presse, bien sûr. Alors, sachez que j'ai une journée quand même de fou. J'ai une semaine de fou qui s'annonce, puisque j'arrive dans ma semaine qui pique. C'est ma fameuse semaine qui pique. Où, 7 jours par mois, j'enchaîne la matinale avec questions pour un champion. Voilà. Je me réveille à 2h. J'arrive à 3h au boulot. Voilà, jusqu'à 8h30, 9h. Je prends un taxi. Je vais à questions pour un champion, au lieu de rentrer à la maison pour streamer. Et là, je tourne jusqu'à 19h. La journée fait 2h, 19h. 17h, c'est très très bien. C'est la semaine qui pique. Voilà. À coup de café, ça se tient. D'où l'émote. Donc, je fais ça 7 jours par mois. Alors, c'est les 7 jours où je suis un peu triste parce que je ne peux pas streamer avec vous. C'est juste impossible. Et donc, cette semaine, elle arrive là. Mercredi, jeudi, vendredi, week-end, on pose. Hein, samedi, dimanche. On n'est pas des bœufs quand même. Et après, c'est reparti. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Ça va faire 7 jours. Voilà, 6 émissions par jour. 42 émissions. On va être bien. Mais aujourd'hui, on n'est pas dans la semaine qui pique, mais c'est une journée qui pique quand même. Donc ce matin, 2h, réveil, 3h, France Info, 8h30, 9h, retour ici, stream, voilà, cool, pas très long, 2h30 je pense ce matin. Ensuite, faut que je bosse sur un stream ce soir sur la chaîne Twitch de France Info, donc j'ai une heure et demie à bosser pour préparer des trucs. Ensuite, je passe une tête à la réunion de copropriété de mon immeuble pour dire que je peux pas rester et que je donne mon pouvoir. Pourquoi? Parce que j'avais oublié que cet après-midi, à partir de 15h, j'avais une voiture qui venait me chercher à la maison, un taxi, pour m'emmener à un tournage pour TF1. Voilà. Bon, sauf que je l'avais calé dans un mois, je m'étais gouré, j'avais marqué mars au lieu de février. Ok? Donc je passe une tête à l'AG de copro, je remonte, je prends le taxi, je vais tourner mes trois petites émissions là pour TF1 en tant qu'invité. Je suis pas animateur sur TF1. Donc là, vous dites, ouh, quand même pas mal. Hein. Et non, c'est pas fini. Vers 17-18h, quand c'est terminé, j'espère qu'on aura terminé. Là, je prends un taxi pour France Télévisions. Et à 19h, sur la chaîne Twitch de France Info, Attention, c'est pas la chaîne Twitch de France Télévisions, c'est la chaîne Twitch de France Info, celle où vous avez Manon Mella tous les soirs à 18h. Eh bien, ce soir, sur la chaîne Twitch de France Info, eh bien, à 19h, eh bien, France Info reçoit Olivier Véran, le porte-parole du gouvernement, pour parler de la réforme des retraites. Voilà. Et ils m'ont demandé si je voulais bien animer cet échange, a priori d'une heure, ça va être très court, une heure et demie max, entre le porte-parole du gouvernement et vous, en fait, enfin, et qui veut, quoi. Voilà. Donc, je serai avec Christelle Méral, qui est une journaliste politique très sympa de France Télévisions, que je connais bien, avec qui j'ai travaillé à France 3, au 12-13, voilà, quelqu'un qui est vraiment super sympa. Et on fait ça, voilà. Et après, je rentre, il sera 19h, 20h30, 21h, et voilà. Et là, je vais me coucher. Donc, c'est une bonne journée. Julo me dit, il y aura des modos sur la chaîne. Bah, écoute, je m'occupe de rien. Moi, c'est à France Télévisions de faire leur truc. Hein. Non, en vrai, ouais. Après, moi, toute la partie technique de ces streams-là, je m'en occupe pas. La réal, la mise en place, voilà. La modération, il y a des modos, mais c'est France Télévisions qui s'en occupe. Voilà, mais moi, je donne un coup de main. J'accompagne ça, mais c'est tout. Walou. Voilà. Et après, voilà. Donc, journée qui pique. Demain, journée cool. France Info et stream, c'est tout. Et puis après, semaine qui pique. Ah. Bon, à la rentrée, je lève le pied. Septembre, je lève le pied. Oh, c'est mignon. Il y a Fancy qui nous met un joli message, Fancy Rodi. Je te suis en 360p en 4G avec mon tel depuis l'hôpital psy. Merci pour ta bonne humeur, tu me changes les idées. On t'envoie plein de force, mon ami. Ouais. Plein. Voilà. En même temps, j'espère qu'il y a des modos sur la chaîne de France Info. J'en doute pas d'ailleurs. Hein. Je pense que ça va être la même. D'ailleurs, Manon Mella, qui est à 18h sur cette même chaîne tous les jours, elle le sera d'ailleurs ce soir. Elle a des modos. Hein. Donc je pense que c'est sans doute la même équipe. Je pense qu'avec un porte-parole du gouvernement, il faut des modos. Hein. On est d'accord ? SBRL33, cette journée va te rapporter combien à peu près ? Bah écoute, France Info, ben, c'est mon salaire mensuel hein, le matin. TF1, je suis invité donc zéro. Voilà. France Info, le stream de ce soir, ben, c'est un coup de main que je donne. Voilà. Je demande rien. Pour moi, c'est renvoyer l'ascenseur par rapport à la liberté que France Télévisions me laisse de streamer. Voilà. Donc tous les streams que je fais pour France Télévisions, bon, on va dire que c'est pro bono, c'est dans le cadre de mon contrat de travail, je ne demande rien en plus. Et puis quant à ce stream, ben, ça ne dépend que de toi. SBRL33, si tu lâches ton sub, ben, ce sera pour moi. Voilà, puisque tu demandais la question des sous, je te renvoie la... c'est toi qui maîtrises cet aspect-là, quoi. Ah, je ne peux pas vous dire ce que c'était. Enfin, je n'ai pas le droit. Si, France Info demain matin, bien sûr. France Info demain matin, sauf s'il y a grève, bien sûr, comme la dernière journée de mobilisation à France Info. Le mardi, bon, bah, on n'avait pas fait la matinale parce qu'en fait, voilà, la chaîne était... était pour partir en grève, et donc voilà. Donc demain, l'équipe sera là, mais peut-être qu'on ne pourra pas prendre l'antenne. Voilà. Merci. Le 4, c'est quoi déjà Morph. Merde. Le 4, comment je prononce le 4 Morphère. Ah merde. Un 4, je sais plus. J'ai honte. Un 4 dans un pseudo, je le prononce Morph. C'est un A. C'est un A. Donc c'est Morphard. Merci les amis. Morphard, désolé, merci pour le Prime. Merci Matt pour ce 18e mois d'abonnance à droite. Allez, 29 minutes depuis le début, encore un message et on fait un petit sommaire. Merci Alexandra pour ton gentil message, c'est adorable. Ouais, oui, question pour un champion, c'est 6 émissions par jour. Tous les jeux télé que vous voyez en France sont enregistrés comme ça, en rafale. Voilà. Tous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le modèle économique du jeu. C'est pour ça que ça peut le rendre intéressant. Un jeu, comme c'est pas lié à l'actualité, ça peut s'enregistrer de façon un peu comme ça, compacte, en étant un peu loin de la diffusion. Et économiquement, faire tourner à la même équipe technique et éditoriale et de présentateur 6 émissions dans la journée plutôt qu'une, et ben, ça n'a pas le même coût. Tu divises le coût par 6, voilà, sachant que vous avez certains jeux, certains animateurs, je ne vais pas donner des noms, mais qui tournent beaucoup plus encore. 7, 8, 9, 10 émissions par jour. Voilà. Ouh, ça, c'est des sacrées journées. Hein. Voilà. Bon, il se trouve que souvent, les animateurs qui tournent beaucoup, beaucoup d'émissions comme ça par jour, plus que 6, ils sont animateurs-producteurs. Souvent, ils sont producteurs de l'émission et du jeu. Donc en fait, en tant que producteur, plus ils tournent d'émissions dans la journée, moins ça leur coûte cher en tant que producteur. Donc vous avez, je sais pas si vous comprenez, vous comprenez. Donc voilà, voilà. Donc voilà, c'est tout. Moi je dis ça, c'est compréhensible du coup. Moi c'est 6 et c'est déjà énorme quoi. Ça suffit. Bêta version Marion, j'espère que tu vas bien. Merci pour le 14e mois d'abonnement. Bon, qu'est-ce qu'on fait, hein? On se fait une petite, un petit sommaire. Let's go. Prêt? Go, il y a du go dans le... C'est parti, My Little Trip me dit go. Du coup, les candidats tiennent le coup. La plupart des candidats, ils font qu'une seule émission, hein. C'est très rare de... C'est très difficile de gagner, donc t'en as un qui gagne et qui va enchaîner une deuxième. S'il est très fort, il va en faire 3. Et s'il est très très fort, 4. Et c'est très rare un candidat qui fait 5 ou 6 émissions dans la journée, à question pour un champion qui a un jeu très dur. Le seul qui l'a toute la journée, c'est l'animateur. Donc, on va dire, sans me vanter, c'est quand même pour moi que c'est le plus dur. Y a Rad qui dit, est-ce que je dois aller aux toilettes? Est-ce que tu peux m'attendre? Écoute, non. Non. Où tu emmènes la tablette et le téléphone aux toilettes, ou alors tu mets le son à fond. Là, il faut y aller. Julien, merci beaucoup pour le 18e mois d'abonnement, c'est adorable. Tous ces gens qui sont à 18 mois, ça me fait super plaisir. Cette fidélité, c'est fou, quoi. Ah, j'ai un message d'un streamer que j'aime beaucoup, que je lis tout de suite. Voilà, dans la préparation de l'hebdo Étienne. Qu'est-ce qu'il me dit? Hop. Oh, super. Oh, je suis content. Moi, vous allez être content, vous aussi. Moi, vous allez être content. On y go. C'est parti. Allez, go. Allez, sommaire. Pas un milliard de trucs ce matin, mais des choses intéressantes. Je préfère la qualité à la quantité. Donc, voilà. Je vous ai pas mis un nombre incroyable d'articles. On va se reprendre une petite fournée de réforme des retraites. Bah, le débat arrive aujourd'hui à l'Assemblée, donc il y a deux, trois petites choses à dire. Mais je ne tire pas la ligne. Hein, je ne vais pas tout vous refaire le débat sur la réforme des retraites, parce qu'à un moment, ça va devenir saoulant. Juste deux, trois petits trucs nouvelles. Et puis, il y a deux nouveaux sujets que j'ai vus ce matin dans la presse, des choses qu'on n'a pas trop développées encore ici, que je trouvais intéressant d'évoquer avec vous. Je remercie Ougiram pour le très gentil message qui dit « Je vis à Londres, tu es ma principale source d'information française, ça me fait plaisir et merci pour le 3e mois ». D'abonnement. C'est parti pour le sommaire. Let's. Quelqu'un me dit que j'ai une tache sous le nez. Non, je pense que c'est une ombre. Là, ah, je vois. Ouais. Attends. Ah non, j'ai une tache là. C'est une tache, c'est une ombre. Hein? Ah, il y a un Naughty qui vit à Cork aussi. J'ai une tache. C'est une ombre. Attends, on va zoomer un peu. Attends, on va zoomer.
Ah, c'est une ombre.
C'est une ombre, hein. C'est une ombre.
Ou alors c'est une énorme crotte de lait.
Non, c'est une ombre.
Hop, je dézoome.
Oh là là, magnifique. Et j'ai recadré parfaitement, quoi. Igal Venis qui est... C'est donc ça, le journalisme d'investigation. J'adore cet humour. Oh, il y a Jump Seat ABS qui va se prendre un ban dev et qui vient d'écrire, je cite, écoutez bien, et ça c'est ban dev direct, les vieilles personnes ont toujours des trucs sur le visage, t'inquiète pas. Je répète ce message, les vieilles personnes ont toujours des trucs sur le visage, ne t'inquiète pas. Oh, cette violence! Mais c'est dingue. Mais vous êtes sans respect. Évidemment, pas de ban pour cette blague qui est très très bonne. Aucun. Mais non, il y a Misako qui dit, c'est un peu dur le ban def. Mais non, c'est une vanne. Personne ne va ban quelqu'un pour une excellente vanne. Vous êtes fous, quoi. Non, ici, on ban les racistes, les antisémites, les discriminants de toutes sortes, les homophobes. Voilà, on ban ça, quoi. Mais on ban pas les gens qui font des blagues, surtout sur le streamer. Alors, ça, c'est bon, ça, au contraire. C'est drôle. Ah, il y a vraiment quelqu'un qui a cru que j'allais ban. Bah non, vous êtes fous, quoi. On est là pour se rendre la gueule. Allez, let's go, sommaire. À l'image de la caméra zénitale. Hein. Voilà. Avec un Z. Alors. Voilà. Peut-être que vous alliez penser que toutes les unes ce matin de la presse nationale allaient être sur la réforme des retraites qui arrive à l'Assemblée. Donc là, on va rentrer dans le débat, ça va être intéressant. Regardez, pas le Parisien. Et là, je trouve qu'il y a un dossier que pour le coup, je trouve très intéressant. Pornographie. Voilà, donc je vais vous montrer plein de films, plein d'images. Ça va être la fête. Ça va être top. Comment préserver nos enfants? Le ministre chargé du numérique nous annonce, donc c'est une interview exclusive, un dispositif de vérification d'identité pour interdire l'accès des sites aux mineurs. C'est très intéressant. Pourquoi? Parce que on a lu ces derniers mois ensemble des articles sur voilà, ce problème. Hein. On a des statistiques qui nous parlent de l'âge des petits en France, l'âge auquel ils accèdent pour la première fois au porno, hein, avec une vision un peu particulière quand même de l'amour et du sexe véhiculé par ces films, comme vous le savez, enfin si vous avez déjà regardé ce genre de truc. Et donc on a des petits, des tout petits, qui accèdent trop tôt à ces contenus. Bon, ça c'est le constat, d'accord. La réflexion, au-delà de, comme le dit Dusty, épidémiologiste, qui est très juste, au-delà de l'éducation et de la prévention, la question c'est comment on peut empêcher, hein, encadrer les enfants, hein, on parle de jeunes, d'accéder à ce matos. Eh bien, la France lance une initiative. Je ne sais pas si ça va arriver au bout, mais ça bosse. Ça rigole. Oh, il y a un joli raid, merci beaucoup. Ça rigole, vous êtes beaucoup à dire cette loi est sponsorisée par NordVPN, tout ça. Je suis pas sûr que NordVPN fonctionne pour contourner ce truc. Voilà. Quelqu'un me dit, j'espère qu'il n'y aura pas d'image dans le Parisien. Et Rundi a raison, vous savez quoi? Je vais remercier le raid dans un instant. Souvenez-vous, j'ai été banni deux fois sur Twitch. En lisant des articles dans la presse du matin, la presse sérieuse du matin, à un moment, on tombait sur des petits bouts de fesses pour illustrer des trucs, comme par exemple, quand on veut pas avoir d'enfant, quand un couple veut pas avoir d'enfant, qu'on appelle ça comment on dit la pilule, les préservatifs, la contraception. Dossier sur la contraception en Libération, à un moment, on a vu un petit bout de zizi, paf! Ban. Dossier dans le Parisien sur l'évolution de la représentation de la nudité à la télévision française depuis les années 50. Voilà, le truc chiant comme la mort. Un moment, un bout de fesse. Damn. Ban. Donc maintenant, caméra zénitale éteinte. Et je regarde s'il n'y a pas des bouts de fesse. Putain, mais en vrai, j'allais me refaire ban. Page 3, la page que vous n'avez pas vue. Il y a une meuf là. On est en train de remonter son bas. On voit rien, mais dans le doute, il me faut des post-it là. Il me faut des trucs là. J'ai pas des post-it là ? Il faut des post-it là. Et des post-it ici ? Comme me faire ban. Ouais. Tiens, mais bien, merci ceux qui m'ont averti quoi. J'allais me reprendre un ban quoi. Voilà. Non, je vous montre pas. T'as pas vérifié avant de te sélectionner l'article ? Ben non, Ellie. C'est-à-dire que je suis trop naïf en fait. À un moment, je me dis, si c'est dans le Parisien, c'est dans Libération, c'est dans le Figaro, si c'est dans le Monde, let's go, quoi. On peut montrer ça sur Twitch. Non, parce que c'est une modération américaine. Et les Américains, parfois, sur la nudité, ils sont un petit peu cons. Voilà. Donc, je l'ai bien fait, là, je crois. J'ai le bon accent, là. Et donc, il faut que je cache ce truc. Bon. Alors, normalement, je ne suis pas censé vous lire cette page 3, donc ça tombe bien. Bref, donc je reviens à page 2. Ouais, c'est bon, page 2, on peut. C'est quoi cette voix? C'est la voix. C'est une imitation de la philosophie de la modération américaine. Voilà. Voilà. Et donc, pour redevenir sérieux, le Parisien nous apprend que en début de semaine, là, dans quelques jours, quelques heures, le gouvernement va annoncer un dispositif afin d'empêcher les moins de 18 ans d'accéder à des contenus sur Internet qui va entrer en vigueur en septembre. Donc c'est un truc en cours, c'est un truc qui va être présenté, c'est un truc qui va être mis en place, a priori, hein, mettons plein de conditionnels là-dedans, en septembre prochain. Je vous résume le truc pour ceux qui ne pourront pas rester avec nous pour lire cet article. C'est en mode, c'est un truc pour authentifier que vous êtes majeur. Et en gros, ça prendra la forme, vous savez, d'une appli sur le téléphone pour prouver que tu es majeur, voilà, qui peut être relié à ton compte en banque, par exemple, un truc comme ça, quoi. Un peu, tu sais, quand tu fais un virement ou tu veux te connecter à ton compte bancaire, il faut authentifier ton téléphone avec un code ou avec ta tête. Et ben, ça fonctionnera un petit peu comme ça. Voilà. Donc, c'est une authentification de ton âge, comme quoi tu es majeur, voilà. Mais donc, en respectant l'anonymat. En respectant l'anonymat, voilà. C'est ce qu'on nous propose, quoi. Donc, je vous lirai ça. Je trouve ça pas inintéressant. Peut-être que vous allez me dire que c'est complètement tapé et que ça a pas marché, quoi. Vous me direz ce que vous en pensez. Voilà, certains me disent que c'est un France Connect version XXX. Ouais, on va lire ça. Donc, on lira ça tout à l'heure. Bon, en tout cas, je sais pas si ça va marcher, mais on doit reconnaître que les autorités se bougent un petit peu là-dessus. J'ai eu un joli raid, là. Je vais aller voir la chaîne qui nous raid. C'est trop gentil. Pour info, c'est un joli nom. Je connais d'abord. Je connais ça, non ? Je connais ça. Je regarde s'il n'y a pas de... Je connais cette chaîne. Je suis sûr que je la suis déjà. Je la suis déjà. Oui, on se connaît déjà. On se connaît déjà. Je vérifie qu'il n'y a pas de fesses. Je suis traumatisé maintenant. Salut, je m'appelle Romain. Je suis hacker éthique. Et je te fais... Ah, c'est vachement intéressant. Et je te fais découvrir la cybersécurité. Comme ça concerne tout le monde peut comprendre. Pas besoin d'être un hacker à capuche. Voilà. Comment protéger sa vie numérique ? Où en est le conflit cyber aujourd'hui ? On y répond. Ok, super. C'est génial, c'est vachement intéressant. Si j'avais du temps, c'est exactement le genre de contenu que je regarderais. Bon, j'ai un peu plus de temps, quoi. Oui, je me suis déguisé en pirate. En hacker éthique. Hein, vous avez, oui, d'ailleurs, vous avez, en vrai, on rigole, mais vous avez tous remarqué que dans la presse traditionnelle, voilà, les journaux que je vous lis, quoi, chaque fois, bon là c'est moitié, c'est un peu bizarre quand même. À chaque fois que vous avez une illustration d'un hacker, hein, d'un pirate informatique, hein, il a une capuche, il est de dos en général. Vous l'avez vu ça en vrai, vous l'avez vu. Il est de dos et il a une capuche. Hein, il a un sweat avec capuche. Vrai ou pas vrai? Vrai ou faux? Vrai? Ah, l'artux de fou. Oui, vous avez remarqué. C'est-à-dire que le hacker, il a un sweat et capuche. Pourquoi? Tu sais pas. Il a un sweat et capuche. Hein, hein. Ce qui est, oui, comme le dit Quickie, joli pseudo, Quickie, c'est super utile derrière un écran. Mais c'est vrai ou pas? Hein, hein, c'est génial. Bon, je suis un peu en mode Palpatine aussi là, mais bon. Donc c'est drôle, quoi. Voilà. Voilà, c'est drôle. Parce qu'il est dans l'ombre, exactement. Ouais. Et voilà, et comme le dit Soltry Karenchi, et le hacker n'a pas de lumière chez lui, c'est vrai, dans les photos, il travaille toujours dans le noir, il n'y a pas de lumière chez lui. Le hacker, il n'y a pas de lumière chez lui. Alors, il paye l'électricité pour son ordinateur, mais c'est tout, quoi. C'est drôle. Et parfois, ils ont une cagoule, même. Ouais, c'est ça. quelqu'un me demande si je sais ce que c'est un quickie. On va peut-être pas partir là-dessus. Hop là. Voilà, ça c'est bon. En fait, c'était moi, hein, depuis le début. Brobro06, merci pour les bits. Joli ton message, c'est intéressant. Pour info, merci donc pour le raid à l'instant. Auruk, merci pour le 18e mois d'abonnement. Et on continue. Donc, on lira cet article en faisant attention aux pages qu'on va tourner pour pas montrer des fesses. Je me méfie maintenant des dossiers sur qui parlent de sexe dans la presse, puisque la modération française, européenne n'est pas tout à fait la même, vous l'avez compris, que chez nos amis américains. Hop. Donc, je vous mets ça de côté. Oh, puis sinon, une petite page retraite, bien sûr, hein, je continue mon sommaire. Merci Yellow Dog pour le 3e mois d'abonnement. Oh, c'est trop mignon, il y a Mav qui nous regarde depuis l'Espagne en famille avec un café. Hola, hola familia de Mav, ¿cómo está? Accent pourri, je suis désolé. ¿Cómo está? Et Bienvenido en el stream del señor Samuel Etienne. Je sais pas si ça va, ça, je sais pas ce que j'ai dit. Bon, en tout cas, ouais. J'adore. Je pratique pas du tout l'espagnol, mais c'était ma langue préférée au lycée. Je trouve que c'est une magnifique langue. Claro que si. Alors, il y a quelqu'un qui dit bonjour depuis l'Indonésie, mais là, je maîtrise pas du tout, quoi. Si. Soy el, comme le dit Morguli dans le chat, soy el rey de Twitch. Non, en Berlin, c'est pareil, je parle pas l'allemand non plus. Bon, arrêtez de me distraire. Hein. Parlons un petit peu. Non, je parle pas. Non, je parle. Bonjour de Prague. Eh ouais. Ça va, je baragouine l'espagnol et je parle un très mauvais anglais avec un accent détestable, quoi. On va s'arrêter là. Mais bonjour à tous ceux qui nous regardent depuis partout. République tchèque, Suisse, c'est trop trop cool. La Normandie, voilà. Très loin aussi, ça. Donc, qu'est-ce qui se passe avec la réforme des retraites, dernier épisode ? Bah, ça arrive à l'Assemblée. Voilà, ça arrive à l'Assemblée, ça arrive au Parlement, ça commence par l'Assemblée, ça ira au Sénat après, il y aura la commission mixte paritaire. La question, c'est est-ce que le gouvernement va réussir à trouver une majorité entre les voix des députés donc Renaissance et celle a priori de LR, de la droite. Voilà, évidemment le gouvernement a très 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 envie de trouver une majorité parce qu'il n'a pas très 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 envie d'utiliser le 49-3, de faire passer cette réforme sans vote, parce que pour une réforme aussi importante que ça, ça ferait un petit peu désordre et pas très démocratique. Voilà. Donc il rêve d'avoir une majorité, cette majorité qu'ils n'ont pas à l'Assemblée puisqu'ils sont en majorité relative depuis les législatives, ils ont besoin des voix de droite, donc ben, c'est cette bataille voilà, qui commence là. Voilà. La bataille de l'Assemblée, ça c'est la une de Libération. Qu'est-ce qu'on dit Libé, on verra ça tout à l'heure, que l'Assemblée ressemble un peu à une pétaudière, nous dit Libé. Et puis, que justement, pour essayer d'obtenir cette majorité, on en a parlé hier avec une interview de la Première Ministre dans le journal du dimanche, eh bien, le gouvernement fait des concessions, pas tellement pour convaincre les Français, ça c'est un peu foutu, mais pour convaincre les députés de droite pour de voter cette réforme. Est-ce qu'ils vont y arriver ? C'est l'objet de cette bataille de l'Assemblée. Bataille de l'Assemblée qui est aussi du Figaro, je crois. Hop. Bataille des retraites s'engage à l'Assemblée. Alors, Libération est un journal qui est opposé à cette réforme. L'Humanité est un journal qui est opposé à cette réforme. Le Figaro est un journal qui soutient cette réforme. Regardez, je lis juste le titre de l'édito d'Yves Tréhard. Impopulaire, mais nécessaire. L'Opinion aussi est un journal qui soutient cette réforme. Je vous l'ai mis là. Mais là, je passe par les Échos. Donc, toujours en sommaire. Les Échos qui, ben, justement, constatent que Elisabeth Borne joue l'ouverture avec les concessions que dont je vous parlais en direction des députés LR. Il y a une interview assez intéressante de Laurent Berger, donc le secrétaire général de la CFDT. Vous savez qu'il y a une unité syndicale actuellement, hein. Ce qui est rare dans l'histoire moderne du mouvement syndical en France. Unité syndicale contre cette réforme qui tient pour l'instant. Ça, c'est très intéressant. Et donc là, on a une interview de Laurent Berger de la CFDT et qui dit ce qu'il pense des concessions actuelles du gouvernement en disant ce sont des rustines et ça changera pas. Vous voyez le titre, un projet de loi, je cite, injuste et brutal. Né Sassio, merci de claquer ton prime comme tu le dis et merci de ce gentil message et de ce quatrième mois d'abonnement. Hop, on lira cette interview bien sûr. Alors, oui, certains me disent, oui, les Échos, on sait très bien ce qu'ils pensent, c'est un journal libéral, c'est le journal de Bernard Arnault, Let's Be Careful. Bon, ben, les Échos qui donnent la parole sur une pleine page à un opposant à cette réforme. Donc, l'étiquette d'un journal, c'est bien de mettre des étiquettes sur tout, mais parfois, dans un même journal, vous avez des sensibilités différentes qui s'expriment. Voilà. Donc, les Échos, oui. Journal plutôt libéral, hein, qui a un prisme plutôt libéral sur le traitement de l'actualité, notamment économique, mais qui donne la parole sur une pleine page à Laurent Berger, par exemple, ce matin. Donc vous voyez que c'est un peu plus complexe que ça. C'est parfois facile de mettre des étiquettes. Moi-même, je le fais en vous disant bah, l'UMA, c'est un journal plutôt lié au Parti communiste historiquement. Libé, c'est un journal de gauche, social-démocrate. Le Figaro, journal plutôt conservateur, libre, etc. On met les étiquettes pour un peu comprendre. Mais parfois, c'est un peu plus subtil que ça. L'Opinion, donc, j'en ai très libéral aussi, est pro-réforme. Voilà. Et estime que justement les concessions dont on parle sont en train de vider cette réforme de sa substance, et donc l'Opinion trouve ça totalement naze. Hop. Bon, mais ça c'est pas très nouveau, ça fait quelques semaines déjà qu'on lit les analyses des journaux sur cette réforme, on va pas y passer 10 heures. Ça par contre c'est nouveau. Bon là, il y a un petit truc sur les retraites en une, mais il y a cette histoire aussi. Oh la vache, c'est une sacrée histoire. Ça c'est une sacrée histoire. Ça, c'est la première fois. Moi, j'ai commencé à bosser quoi, en 94. Enfin, je dis toujours, ça fait 25 ans que je fais ce métier. Et puis, en fait, comme ça fait des années que je dis que ça fait 25 ans. Attends, on va faire le calcul. On est en 2023, c'est ça? J'ai commencé en 1994. Ça, ça fait 29 ans. Ouais. Donc, ça fait, en gros, ça fait 4 ans que je dis que ça fait 25 ans que je fais ce métier. Donc, bah, du coup, ça fait 29 ans. Et ben, en 29 ans de journalisme, et ben, c'est la première fois que j'entends parler d'une histoire comme ça. Et je vois que certains sont au courant. Il y a Takuna qui dit « C'est dingue cette histoire ». Bah ouais, c'est dingue. Soupçon d'ingérence marocaine à BFM TV. Le présentateur Rachid Mbarki, que vous connaissez peut-être, qui est là, hein, que je connais, qui est un confrère, que j'ai croisé déjà, qui est sympa comme tout, a été écarté des plateaux de BFM. Il aurait reçu de l'argent en échange d'un publi-reportage favorable au régime marocain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est l'humanité qui a le plus bossé sur ce sujet là. Voilà. Voilà. C'est BFM qui sort l'affaire, hein. C'est BFM qui a mis à pied, donc il est suspendu d'antenne le présentateur, qui a fait une réunion, voilà, et puis qui parle manifestement assez facilement à la presse de cette histoire. Je pense qu'ils sont en train de sortir le parapluie là pour éviter que cette affaire, comment dire, entache leur image. Soupçon d'ingérence marocaine à BFM. Le 3 février, lors d'une réunion avec des journalistes, Marc-Olivier Fogiel, qui est le directeur général de BFM, est revenu sur les raisons de la mise à l'écart de Rachid Mbarki, soupçonné d'avoir perçu des rémunérations en liquide pour diffuser des contenus échappant au circuit de validation, notamment sur le Maroc. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce qui est reproché à Rachid Mbarki concrètement? Quels sont les éléments de preuve? Certains me disent dans le chat quelles sont les preuves de BFM. Hein, voilà. Je remonte un petit peu, j'ai vu des messages là-dessus. Voilà, c'est Joliot qui dit est-ce que ces soupçons sont basés sur quelque chose quoi? Donc, quels sont les éléments matériels pour permettre à BFM d'accuser, c'est très grave, hein, ce présentateur. Voilà. Quelle est la défense du présentateur? Parce que dans l'humanité, on lui donne la parole. Enfin, il explique ce que lui a répondu à la direction de la chaîne. L'affaire est incroyable. Moi, en 29 ans de métier, je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. On parle quand même d'un journaliste, d'un présentateur, d'une tranche d'information qui est accusée d'avoir touché de la thune en liquide d'un régime, d'un État étranger, pour non pas faire son métier de journaliste et de rapporter les informations les plus justes qu'il peut, mais d'avoir accepté de donner certaines infos d'une certaine façon, voilà, en échange d'argent liquide. Je n'ai jamais entendu ça en 29 ans de journaliste. Jamais. Je n'ai jamais vu une histoire comme ça. Jamais. Donc c'est assez étonnant. Je suis très bon. Je l'ai croisé, je ne le connais pas. Je n'ai aucun avis sur le journaliste. Mais comme toujours, il faut s'interroger qui dit la vérité, parce que vous avez deux versions, celle du journaliste et celle de la chaîne. Donc on va lire tout ça. Voilà. C'est très étonnant. Bon, on va suivre cette histoire de toute façon parce qu'on ne peut pas en rester là. C'est trop grave. C'est trop grave pour notamment pour l'image des journalistes. Parce que, je vois déjà ceux qui vont en tirer des conclusions en mode « Tiens, je dis ça et Astaroth écrit « De la corruption médiatique. » Tiens, je reprends mon petit accent, j'adore. « Comment ça? De la corruption médiatique? Pas étonnant. Hein » Alors, je pourrais écrire la suite de ton message. « Oui, les journalistes, on sait bien que vous êtes dépendant des forces économiques et politiques, voilà, et que vous prenez des chèques sans arrêt, etc., etc. Bon, je connais ce vieux discours. Si c'est vrai, il fallait me le dire plus tôt, parce que ça fait 29 ans que je me casse le cul, voilà, et que j'ai jamais demandé un chèque à un parti ou à une entreprise. Putain, j'aurais dû, quoi. Sérieux, quoi. Mais quelle arnaque. Putain, mais la thune, la moula que je me serais faite, quoi. Eh ben non. Alors, donc je l'ai pas fait, tout simplement parce que ça ne se fait pas en France, tout simplement, et que les 99,99% des journalistes que j'ai croisés sont des gens intègres, honnêtes et rigoureux, plus ou moins bons, qui font leur métier avec plus ou moins de réussite et plus ou moins de rigueur, mais en tout cas des gens honnêtes. Voilà, ça c'est moi ce que j'ai vécu, quoi. C'est pour ça que cette affaire, je la trouve incroyable et quelque part détestable si les faits sont avérés, quoi. Pour répondre à la question de Bardère60 à l'instant, on ne m'a jamais proposé dans ma carrière de l'argent pour donner une info, quoi. Arrêtez de vous faire des films. Ça existe peut-être dans certains pays, en France, non. Voilà. En tout cas, on ne me l'a jamais proposé. Et évidemment, je n'aurais pas accepté, quoi. Donc après, peut-être que je suis totalement à côté de la plaque et que ça existe. Et que, mais on ne me l'a jamais proposé. Je ne l'ai jamais demandé. On ne m'en a jamais parlé. Je n'ai jamais eu un confrère qui me dit « Ah, mais dans tel rédac ou tel journaliste, là, concurrence ou ailleurs, eh ben, il y a des histoires, des soupçons. » Voilà. Jamais, 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 jamais. Voilà. Donc, c'est pour ça que cette histoire, elle est incroyable. On aura ce débat tout à l'heure. Bien sûr, si Sim4 pose la bonne question, tu peux nous expliquer comment ça fonctionne, Samuel. Qui choisit de diffuser une info ou un reportage? Ben, normalement, il y a une chaîne de responsabilité, on en parlera, dans une chaîne de télévision par exemple, hein. Il y a un directeur de l'information, il y a un directeur de la rédaction, il y a un rédacteur en chef, hein. Le JT, il a un rédacteur en chef, voilà. Voilà. Et toute une chaîne comme ça de responsabilité, de commandement en quelque sorte, qui est censée valider les trucs, quoi. Donc moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est pourquoi les infos qui sont arrivées à l'antenne, notamment sur le Maroc, mises à l'antenne par ce journaliste, affirme BFM, pourquoi ça n'a pas été validé ou invalidé par un rédacteur en chef? Je pose la question. Il est où le rédacteur en chef? Bah, ça, j'ai pas la réponse. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Je remercie Mathieu Jo pour l'abonnement que tu offres à Exutoire. Et puis bon, rapidement, l'info sportive, parce que lundi, l'info sportive, elle est assez importante. Le rugby, oh là là, je ne sais pas s'il y avait des gens qui étaient devant le match contre les Italiens là, du 15 de France pour l'ouverture du tournoi destination, mais c'était chaud, chaud, chaud. Hein. Voilà. 24-29 contre l'Italie. Contre l'Italie, quoi. Petit réconvert de rage, j'ai dû voir le match et me dit dur le match. Voilà, on a Teddy Riner qui rassure, qui vient de remporter le tournoi de Paris, là, voilà, qui vise les Jeux Olympiques pour tenter l'or au prochain JO. Et puis un petit mot de football avec la mauvaise opération de Marseille qui essaye de rester au contact du PSG en tête du classement et là ben, qui laisse le PSG prendre un petit peu d'avance en tête de la Ligue 1 puisque les Niçois sont allés faire une très belle opération en s'imposant 3-1 sur la pelouse de Marseille. Ne me parlez pas de la défaite de Rennes face à Lille, je suis furieux. Ne m'en parlez pas, ça va me mettre en colère. Voilà. Allez, je vous lis un petit peu, ça c'était le sommaire, ça permet à ceux qui ne peuvent pas rester là d'avoir l'essentiel de l'actu rapidement. Puis après on va lire tout ça et prendre le temps d'échanger ensemble, c'est ça qui est cool. Ah, ça n'a rien à voir, mon chouchou. Coalition 9 écrit. Il est très intéressant ce débat qu'on a sur le journalisme et les médias au quotidien. Coalition écrit, le journalisme est censé être incorruptible de par sa position dominante. Okay. Mais c'est bien l'inverse qu'on voit beaucoup. Quand on demande une couverture médiatique pour les journalistes, c'est... Donc Coalition 9, peut-être que toi tu as demandé à des journalistes une couverture médiatique comme tu le dis, c'est-à-dire peut-être que tu as organisé un événement ou tu as voulu attirer l'attention d'un média sur un événement en disant « Ah, ce serait bien que vous parliez de ça ». Donc je reprends ta phrase. Quand on demande une couverture médiatique pour le journaliste, c'est quand on veut, où on veut et on met ce qu'on veut dans l'article. Oui. Exactement. Et c'est ça qui est bien. C'est-à-dire que toi, Coalition 9, je ne sais pas, tu diriges une association, tu diriges une entreprise, tu fais un super stream caritatif ou pas caritatif et tout, tu veux que la presse en parle. Tu prends ton téléphone, ou tu es un homme politique, etc. Tu prends ton téléphone, tu dis « Bonjour Ouest-France, bonjour le Parisien. Donc voilà, je vous donne l'information. Donc maintenant, il faut la publier. » Voilà. Hein. Et le journaliste te dit « Bah non, c'est si je veux, c'est où on veut, et puis je mets ce que je veux dans l'article. » Bah oui, ça s'appelle la liberté de la presse, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas des, on n'est pas des machines à enregistrer des communiqués, quoi. Si une entreprise nous appelle pour se féliciter de ses résultats et de son magnifique travail d'insertion de je sais pas quoi, ben on va regarder l'info, on va la prendre, on va éventuellement la vérifier, on va se demander si elle est intéressante d'abord. On n'est pas une caisse à publicité, on est là pour faire de l'information. Et on fait pareil avec les politiques, on fait pareil avec l'association, on fait pareil avec tout le monde en fait, quoi. Donc donc effectivement, si tu m'appelles pour me donner une info, je vais te dire ben je vais regarder. Voilà. Donc c'est si je veux, c'est si je trouve ça intéressant, si ma rédaction trouve ça intéressant. Toutes les infos sont pas intéressantes. Si pour toi elle est capitale, elle est peut-être pas pour tout le monde. J'en parlerai quand j'aurai le temps, quand il y aura de la place dans le JT ou dans le journal. Voilà. Et je mets ce que je veux parce que ça va être mes mots, les mots que je vais choisir, et ça va pas être les tiens parce que toi tu communiques et moi j'informe. Ça s'appelle le journalisme en fait. Donc ça c'est revendiqué à 2000% en fait. Allez, encore un message. Arrêtez avec Rennes. Arrêtez avec Rennes. Ils ont merdé leur match. Comment on fait pour lire les journaux si on ne sait pas lire, demande Flèche Azur. Eh bien, on écoute la matinée Étienne. On y va, les amis ? On se lit les journaux ou pas ? Arrêtez avec Rennes qui a perdu face à Lille. Arrêtez. Arrêtez, parce qu'après, vous voyez, je suis de mauvaise humeur et je réponds mal aux gens. Sam, ce qui serait bien, c'est de faire un Twitch, un stream, on va dire plutôt, avec les collègues de la rédaction de France Info pour que vous expliquiez les coulisses. Non, Nat, on a fait un stream de 5 ou 6 heures déjà il y a quelques mois. On ne va pas le refaire tous les matins. Oh oui, ça c'est vrai par contre. Parce que c'est pas parce que je défends un peu notre métier qu'on fait toujours les choses bien, au contraire, hein, c'est un travail éminemment humain et subjectif, et plein de fois on fait très mal notre travail. De même que votre boucher, votre dentiste, l'enseignant de vos enfants, parfois va très bien faire son travail et parfois très mal. Et par exemple, Kiki de Jungle dit ce qui est dommage, c'est que la non-relecture qui entraîne parfois des imprécisions ou erreurs, car le journaliste n'est pas forcément expert du sujet. Même en se relisant, hein. C'est-à-dire qu'en fait, le journaliste, souvent, il est bien moins expert que plein de gens qui vont lire le papier. Et il y a plein de gens vraiment experts d'un sujet qui vont lire le papier du journaliste qui vont dire « c'est quand même pas terrible, hein, c'est quand même très imprécis. » Mais oui, parce que le journaliste, surtout quand c'est un journaliste généraliste comme moi, bah, il s'intéresse un peu à tout, mais finalement, il est spécialiste de pas grand-chose. Donc, dans à la fois sa culture générale, qui est limitée, hein, forcément, c'est pas ChatGPT, hein, c'est un journaliste, hein, c'est un humain, hein, sa culture générale qui est limitée. Et le fait qu'en plus il doit se faire comprendre du grand public quand il ne travaille pas pour un média spécialisé, et donc même quand il est spécialiste qu'il doit aussi vulgariser son propos et sa pensée, on arrive à un rendu qui est parfois un peu approximatif, évidemment. Et parfois il y a des énormes erreurs dans les papiers parce que c'est une activité humaine, hein, je ne dis pas que ce qu'on fait est toujours génial, loin s'en faut. Tous les matins, dans la matinale que je présente, tous les matins, pour pas dire à chaque demi-heure, on se dit ah non, ça va pas, c'est pas comme ça qu'il fallait le dire, là attention, le bilan c'est pas le bon, attention là il y a une erreur sur la... Enfin, sans arrêt en fait, c'est truffé de petites erreurs, parce que c'est une activité humaine, voilà. Et bien, le mieux c'est de s'en rendre compte, de les corriger, de faire mieux la fois suivante, et puis de reconnaître aussi quand des téléspectateurs, des lecteurs, des auditeurs nous disent qu'on s'est trompé, quoi. Voilà. Merci, Martin, comment ça va ? Notre DJ préféré vient de nous raid. Martin M2X, un joli raid, merci à vous. Vous n'êtes pas en retard parce qu'on vient de finir le sommaire seulement. Voilà. Donc, voilà. Allez suivre cette chaîne parce que c'est une concentrée de bonne humeur, celle de Martin Martin. On y va? Pour faire plaisir aux viewers de Martin Martin qui viennent de se prendre une dose de bonne humeur et de musique avec notre ami, eh bien on va commencer la revue de presse, on va lire les journaux. Et je remercie Brigitte63 pour ce 5e mois d'abonnement. 5 mois, bonjour, bonjour, merci à toi. Allez, c'est parti, hop. On va commencer par... Alors ça va surprendre les gens qui nous rejoignent. On va commencer par le porno. Et là, subitement, je sens que j'ai l'attention de tous ceux qui viennent d'arriver. Comment ça? Quoi? Le porno? Eh oui, eh oui. Hein, ah, je sens des oreilles qui se dressent. Là, j'en suis sûr. Hein? Tac. Des oreilles, j'ai dit. On commence par le porno. Allez, c'est parti. Et là, la modération américaine qui me surveille est en sueur. What? What did he say? What, he's starting with the porno? What? Again? Ah... On va encore le bannir. Et ouais, c'est reparti. C'est let's go pour le porno. Oh, je suis enrhumé, excusez-moi. Hop. J'ai un petit peu froid. C'est parti. Il y a petit dragon vert d'orage qui me dit oui, il y a pas oui, tes modérateurs aussi ils sont en... oh, vous êtes vachement nombreux. Ils sont un peu en stress. Anonyme 31, brobrou 0. Comment ça vous soyez aussi nombreux un lundi matin? Anonyme 31, Brobo 06, Julo 18, Maj Milenberg, j'avais pas vu depuis longtemps, comment vas-tu? Ça me fait plaisir. MMG7F, My Little Trip, Nightbot bien sûr, Petit Dragon Vert de Rage, Reyes, Soleil, Alan, ah oh, comment ça va? Et Takayoff, oh ça me fait trop plaisir. Ah c'est cool. Et je vois parmi les habitués, il y a Eden Blaster et Defecator qui sont là aussi. C'est cool. Ah c'est les vacances pour certains? Ah les vacances ont commencé déjà? C'est cool. Bon, comme le dit Petit Dragon Vert de Rage, dans ce dossier sur, non pas la pornographie, mais comment préserver nos enfants de la pornographie, il faudra... Il ne faudra pas lire la page 3. Putain, c'est pas... Donc voilà. Faudra pas lire la page 3. Non, mais en vrai, il n'y a rien. Il n'y a rien sur cette page 3, mais faudra juste pas la lire. Ok ? Comment préserver nos enfants de la pornographie ? Ça, c'est un vrai sujet. On a fait le constat ces derniers mois, on a lu des articles de fond là-dessus, sur le fait que c'est pas possible. Il y a des tout petits en France, enfin, la plupart des enfants accèdent très très tôt, beaucoup trop tôt, à un contenu pornographique sur Internet, quoi. Donc ça c'est pas possible. Alors, le gouvernement a dit, il y a une réflexion en cours, on va essayer d'encadrer ça. Quand on a parlé, tout le monde a dit, mais c'est impossible d'encadrer Internet. Hein. On peut toujours contourner tout, bien sûr. Impossible d'encadrer l'accès au matériel pornographique sur Internet. Impossible, impossible. Eh bien, le gouvernement va essayer. Merci beaucoup Mathieu Jo pour l'abonnement que tu offres à Lunettes de Xari. Lisons la page 2, pas la page 3, parce que la page 3, photo qui... Il n'y a rien, mais je me méfie de tout maintenant. Tiens, tu vois, il y a Cypher qui dit « J'ai commencé à 10 ans, aujourd'hui je suis ravagé. » Voilà, c'est ça. Les enfants, c'est pas possible. Vous allez voir, l'âge d'accès au porno des enfants en France, c'est pas possible. On fera un sondage là-dessus. Je vous demanderai, c'est La Parisienne qui dit ça. Vers quel âge avez-vous... accéder à du contenu pornographique, c'est un sondage que propose La Parisienne. C'est une très bonne idée. Je vais vous poser la question. Voilà. La page 3, elle n'est pas intéressante. Exactement, Nizok. Voilà. On ne regarde pas la page 3, on lit la page 2. La page 2, il n'y a rien, il y a un clavier d'ordinateur, je vérifie. Il n'y a rien. Vous êtes d'accord? Vous êtes témoin, vous êtes 3500 à pouvoir témoigner qu'il n'y a rien sur la page 2? Est-ce que vous pouvez témoigner qu'il n'y a rien sur la page 2, que c'est nickel, c'est que du texte, hein? Vous témoignez ou pas? Vous êtes avec moi? Vous êtes OK? Si je peux vous demander une attestation? Il y a écrit porno. Oui, c'est vrai. C'est twitchable. Ok. Il n'y a rien. Il y a R. On y va. Let's go. Édito en quasi libre service. Laurence Voyer. le porno sur Internet, les vidéos, c'est en quasi libre service, quel que soit l'âge. Nous dit la rédactrice en chef du Parisien, lisons cet édito, interdit aux moins de 18 ans, la formule est explicite mais jusqu'à présent totalement utopique. Il y a un peu plus d'un an, nous lisions éberlués dans nos colonnes le cri d'alarme de Samia, une infirmière scolaire de Seine-Saint-Denis, je pense qu'on avait vu ce dossier, qui disait il faut agir vite, disait cette infirmière scolaire, implorait-elle, répétant les mots crus entendus dans les cours de récréation des écoles primaires. Directement inspiré des vidéos porno disponibles d'un clic gratuitement sur le téléphone portable des élèves. Voilà l'ambiance dans la cour de récré, quoi. Moi, je suis content de venir d'une génération où on n'avait pas accès à ça dans la cour de récré, quoi. Franchement, on jouait au foot. Voilà, enfin, pas moi parce que j'étais nul. Mais qu'est-ce que je faisais ? Pas grand-chose. Je lisais des bouquins, moi, dans la cour de récré. J'étais un peu bon, bref. Samia, donc l'infirmière scolaire, avait décidé de lancer des ateliers de sensibilisation dès l'âge de 9 ans. Les chiffres, hélas, confirment le ressenti de Samia. En 2018, un sondage OpinionWay indiquait qu'un enfant sur 3 avait déjà été exposé à une séquence pornographique à l'âge de 12 ans. Un enfant sur 3. L'effet traumatisant sur les plus jeunes, l'image de la femme véhiculée, la violence ou encore la banalisation des conduites à risque, inlassablement dénoncées par les associations, par les psychologues, viennent de faire l'objet d'un rapport édifiant de l'Académie de médecine qui constate aussi que ces images sont en quasi libre service, quel que soit l'âge de l'enfant. Et aujourd'hui, on sait que c'est pas très très bon, hein, pour le développement des enfants, de leur représentation de l'amour, du sexe, et du sexe opposé, que de consommer ça surtout tôt, quoi. Voilà. Stopper ce raz-de-marée ne sera pas facile, mais force est de constater que jusqu'à présent, l'arsenal législatif et technique était très limité. Le passeport numérique... Ah ouais, c'est ça, c'est un passeport numérique, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Le passeport numérique dont nous annonçons le lancement nécessitera enfin de prouver sa majorité pour accéder au contenu porno. Ça, c'est l'objectif. On va voir. Ce dispositif ne sera pas parfait, on lui reprochera sans doute d'être contournable. C'est ça qu'on va essayer de comprendre ensemble. Cette première étape indispensable a néanmoins le mérite de renforcer le verrou et de contribuer à faire prendre conscience de l'ampleur du phénomène et de ses dangers. Alors tu vois, déjà la journaliste, elle dit, si jamais ce truc marche pas, hein, si ce truc est facile à contourner, au moins ça provoque un débat. Brou brou, merci pour les bits et pour le message, j'ai vu. Et donc dit, voilà, au moins ça. Ce débat peut faire prendre conscience des parents, par exemple, qui sont pas, qui se rendent pas compte, en fait. Ne rien faire laisse penser qu'il n'y a pas de danger. Une occasion aussi de convaincre les parents que leurs enfants sont exposés, bien plus qu'ils ne le soupçonnent, et surtout, bien plus tôt. Voilà. Je vais vous lire ce que s'apprête à proposer le gouvernement, vous allez me dire ce que vous en pensez, puis moi, je vais d'abord vous poser la question. C'était quelqu'un dans le chat qui proposait ce sondage, c'est la première fois qu'on fait ce sondage. À quel âge avez-vous été exposé pour la première fois à du contenu pornographique, quoi ? À quel âge avez-vous accédé, ouais, c'est ça, à du porno, quoi. Porno. Voilà. On va dire... Alors, je vais faire... Moins de 9 ans, parce que c'est un chiffre qui est évoqué, là. Moins de 9 ans, je sais pas moi, 10 et 12, et 12 ans, voilà, entre 13 et 15, voilà, entre 16 et 18, voilà. Voilà. J'ai dit porno, hein. Il y a Al Gore qui dit à 10 ans sur les catalogues 3 Suisses et de la Redoute. Porno, les gars. Porno, quoi. Ah, on est d'accord. Ah, on m'a dit que porno, le mot porno va peut-être pas passer. Je vais voir. Plus de 19. 19 et plus, voilà. Voilà. Pornographie, quoi. Hein. Pas les photos des dames en maillot de bain. Hein. Ok ? D'accord ? Alors, à quel âge avez-vous accédé à du porno ? Moins de 9 ans, entre 10 et 12, 13, 15, 16, 18, 19 et plus. Je lance le sondage. Est-ce que ça a marché avec le mot porno ? ça marche, le mot porno il passe. Ouais, oui, oui, le mot porno il passe sur Twitch. C'est... Voilà, ça me surprend. Ouais. Voilà. Alors c'est parti. Moi je vous lis pendant que vous votez, puis je vous mets le sondage là. C'est parti, voilà. Ah oui, il manque 9. Bon, bah oui. Bon, on va dire ceux qui ont découvert à 9 ans, vous mettez moins de 9. Vous mettez. Ok, pardon. C'est vrai que dans mon sondage, il manque 9. Donc, ceux qui ont découvert à 9 ans, vous vous mettez dans la première catégorie, moins de 9. Allez, je vous lis aussi un petit peu. Ouais, j'ai vu un raid, et peut-être même de mon ami David Dufresne. David, on est en train de lire, et ami de David, le dossier du Parisien sur comment on peut éventuellement, avec une initiative du gouvernement qui va être précisée dans les prochaines semaines, là, interdire l'accès au porno pour les enfants, pour les mineurs en France. Voilà. Et donc, voilà, ils sont en train de travailler sur les solutions techniques qui pourraient marcher. Du coup, j'ai demandé à la communauté, mais puisqu'il y a un constat que les jeunes accèdent beaucoup trop tôt au matériel pornographique... En France, ben vous, à quel âge ? Donc c'est le sondage qu'on a lancé. David, tu peux voter, et les amis de David aussi, bien sûr. Voilà. Je pense qu'il y a plein d'histoires personnelles, chacun raconte. Ah, David a voté. Salut David, ça va ? Ok, alors le résultat, ok. Donc, le plus gros score, ah, je suis étonné, je pensais que ce serait moins. Entre 13 et 15 ans, 44% d'entre vous, vous avez accédé à du porno pour la première fois, entre 13 et 15 ans. Entre 10 et 12 ans, c'est le deuxième score le plus important, 35%, ok. Entre 16 et 18 ans, c'est pas ridicule, 10%, ok. 19% et plus, c'est pas ridicule non plus. Vous êtes 6% à avoir découvert le porno plus tard, à partir de 19 ans, 19 ans et plus. Donc si j'ajoute les 10% de 16 et 18, donc ça fait 16% au-delà de 16 ans, quoi. Voilà. Et finalement, le chiffre, dont j'avais peur qu'il soit très important, de gens parmi vous qui ont découvert le porno à 9 ans et moins de 9 ans, eh ben vous n'êtes que 5%. Alors que les papiers que je lis sur la question, eh bien, sont très alarmistes, en fait, quoi. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant. Vous voyez ? Ah, c'est intéressant. En fait, ce sondage, je le trouve intéressant, parce que finalement, là, vous êtes plutôt plus jeune que moi, hein. En gros, vous avez, d'après les statistiques... Les petits sondages qu'on a fait, vous avez certains ont mon âge, certains ont plus, mais globalement, vous êtes à 75-80%, vous avez entre 18 et 30 ans, hein, en gros, l'essentiel des viewers ici, même si certains ont moins et certains ont plus, mais on va dire 75-80%, donc vous êtes plutôt plus jeune que moi, et en fait, vous n'avez pas découvert le porno tout petit, quoi. Ok. Très bonne question de Nariama qui dit « Et toi, Samuel ?» Bah ouais, je peux répondre à la question, en vrai. Quel âge, moi ? Porno, alors c'était pas, il n'y avait pas internet à l'époque, alors il faut que je me rappelle les conditions d'accès à ce truc là. Donc ça veut dire le porno c'est forcément Canal Plus, hein, pour ma génération, hein. C'est le film, c'est simple, hein. Let's go, hein. On va taper naissance de Canal Plus, hein. Parce que je pense qu'une fois Canal Plus attends, ah ouais, non, arrivé du, parce que je pense que le porno est pas arrivé tout de suite sur Canal. Par contre, je vais enlever l'écran parce que je vais encore tomber sur des images. Je vais encore me faire ban. Voilà. Ça arrive en 85. Ok. Ça arrive en 1985. Donc, moi, je suis né en 71. Donc, j'ai 14 ans. Voilà. Donc, j'ai 14 ans. Je reviens au sondage quand même. Voilà, c'est trop intéressant. 14 ans. Donc, en fait, je serais dans la plus grosse tranche, là, 44%. Voilà. Moi, je découvre, je pense que je vois mes premières images porno à 14 ans avec Canal+, quoi. Voilà. À l'époque, il y avait une légende. Je pense que les vieux du chat se rappellent de ça. David, il se rappelle. Je ne dis pas que tu es vieux, David, mais je dis que tu es plutôt dans ma génération, quoi. Il y avait une légende à l'époque, la passoire. Ou l'égouttoir, comme le dit Exutoire. Voilà. La passoire. Les plus jeunes, vous allez halluciner. Ouais, il y a que Michael What the Fuck qui dit là. La... Eh, il sait. La passoire. Vous avez la ref. La fameuse passoire. La légende. Les plus jeunes, vous allez halluciner. À l'époque, vous savez, le Canal+, c'est crypté, quoi. Vous savez, il y avait un cryptage, quoi. Comme ça. Et en fait, la légende dans les cours de récré, c'était si tu bouges une passoire devant le cryptage de Canal+, selon. Avec... Oh la connerie, putain! Avec un certain rythme, voilà, une certaine fréquence, en fait, ça annule le cryptage. Et Cyril qui a essayé, on a tous essayé, et dit mais non, ça marchait pas du tout, mais non, ça marchait pas. Moi, voilà. Et t'avais toujours un mec qui disait ouais, si, la passoire, ça, moi j'ai essayé, ça marche, c'est pas vrai. Mais quand t'as cet âge-là, tu racontes n'importe quoi pour, je sais pas, pour frimer ou briller auprès de tes copains, je sais pas. Il y avait des mecs qui disaient. Avec la passoire, j'ai regardé le film porno hier sur Canal. Mes parents dormaient avec la passoire. Énorme, mec, énorme. Ah bon? Morgulissante qui rigole, vous deviez avoir l'air fin. Ben ouais, il y a une génération de mecs, surtout les mecs hein, qui vont regarder ça, je pense. Plus que les filles, je pense. Enfin, c'est ce qu'on dit. Qui sont allés chercher la nuit des passoires dans la cuisine, quoi. Tu vois, il y a quand même des générations de parents qui ont trouvé des passoires traînées dans le salon pendant des années en se demandant mais c'est qui, hein, qui fait traîner laisse traîner les passoires, quoi. N'importe quoi, ça n'a jamais marché. Il fallait deux passoires l'une devant l'autre. Ouais. Oh putain. Oh, c'était énorme. Métro, ouais, il y a Métro 6 qui dit moi j'ai essayé mais c'est pour regarder le foot. Ouais. Le foot. J'ai toujours la même passoire, me dit Coucou Rose d'ailleurs. J'adore. Oh là là. C'est un vrai truc. Ouais. C'est un vrai truc. Mais quelle génération de cons quand même, hein. Oh, c'était bon. Tout le monde savait ça. Les jeunes, là, vous saviez cette histoire-là. Bon, bah écoutez, moi je suis plutôt rassuré par ce sondage-là, parce qu'en fait, je vois que, en gros, si j'additionne le 44 et le 35, voilà, ben vous êtes 79%, c'est énorme, à accéder au porno après 10 ans, quoi. Alors que moi, j'avais peur que ce soit beaucoup avant, quoi. Ok. Bon, bah c'est intéressant. Maintenant, je vais vous lire ce que propose le gouvernement, ce qu'a imaginé le gouvernement. Et je trouve ça, en fait, plutôt intéressant. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ouais, vous voyez, ce matin, je ne vous mets pas une grosse couche sur les retraites. J'essaie de vous lire d'autres trucs aussi pour changer, quoi. Vers l'interdiction du porno pour les mineurs, en début de semaine, donc le gouvernement va annoncer un dispositif, là, donc, dans les prochains jours, je pense, afin d'empêcher les moins de 18 ans d'accéder à ces contenus sur Internet, qui va entrer en vigueur en septembre prochain. Donc c'est le ministre chargé du numérique, Jean-Noël Barrot, qui fait cette annonce. Dans les jours qui viennent, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, et puis l'ARCOM, l'autorité de régulation et de communication audiovisuelle et numérique, ce qui a remplacé le CSA, présenteront le futur dispositif préparé depuis des mois, donc ils ont bossé là-dessus quand même, avec le cabinet de Jean-Noël Barrot et celui de la secrétaire d'État aussi chargée de l'enfance, Charlotte Caubel. Donc ce dispositif, a priori, moi je suis super prudent par rapport à ça, mis en place en septembre, va obliger les sites porno à contrôler réellement l'âge de leur utilisateur dès septembre. Ils devront...
Con.
Il y a plusieurs dans le chat qui disent il porte bien son nom.
Qui?
Et donc je retourne voir le nom du ministre. Donc c'est le ministre de quoi? Chargé du numérique, et je vois Jean-Noël Barrot. Vous êtes con quand même, hein. Ah, je l'ai lu ce matin, je l'ai pas vu ça. Vous êtes fort quand même. David, ils sont forts. Barrot, ah c'est bon. Ah, vous êtes bon. Ah ouais. Ah, je suis sûr qu'à l'Assemblée, je suis sûr qu'à l'Assemblée, ça doit rigoler, quoi. T'as dit non? Devine qui est en train de préparer un truc sur le porno, là. Ben non, je sais pas. Si, si. T'as la buvette de l'Assemblée, je les vois bien. Si, si, devine. Ben non, Jean, je sais pas qui... non. C'est pas la secrétaire d'État à l'enfance, ça. Non, devine. Je sais pas, moi. C'est Barreau. C'est Barreau qui s'occupe du porno. Ça doit rigoler, l'Assemblée. Vous êtes fort, vous êtes fort. Donc c'est Monsieur Barreau, voilà, qui s'occupe du porno. Bah oui, elle est bonne, c'est comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va faire, ce truc? Soyons un peu sérieux. Ah, vous pourriez être sérieux 2 secondes? C'est possible? On parle de choses sérieuses, là. Ouais, bien sûr qu'il y a une buvette à l'Assemblée. Ça... ah bah si, il y a une buvette à l'Assemblée, puis ça tourne. Vous pouvez être sérieux 2 secondes? Alors, comment ça marche? Donc, le truc, c'est d'obliger les sites porno à contrôler réellement l'âge de leurs utilisateurs, et ce, dès septembre. Ils devront s'y conformer sous peine de voir la diffusion interdite sur le territoire national, précise le ministre. En 2023, c'est donc la fin de l'accès aux sites pornographiques pour nos enfants. Ça a l'air optimiste, hein, peut-être un petit peu trop. Comment ça va se passer concrètement? Comment ça va marcher? Ça fait 9 mois. Oui, il y a une buvette dans l'Assemblée. Non, ça vous... Non, bah, ça vous surprend. David, je dis pas de conneries. Il y a toujours une buvette à l'Assemblée. Ouais, ça picole. Non, j'ai même les prix, là. Voilà, regardez. C'est marrant, ça vous surprend. Non, dedans, pas à côté. Ah, pas dans l'hémicycle, mais l'Assemblée, c'est tout le bâtiment. L'hémicycle, c'est là où vous les voyez à la télé quand ils votent, tout ça. Mais l'Assemblée, ça n'est pas que l'hémicycle, hein, c'est tout le bâtiment, l'Assemblée nationale. Et donc, vous avez la buvette dedans. Non, il y a peut-être PMU, je sais pas. Regardez. Là, on est sur le site de l'Assemblée, buvette des parlementaires. Ouais, vous cliquez. Voilà, la petite buvette qui va bien, là. Voilà, la petite photo, là. Voilà, exactement. Pof. Tiens, j'ai vu qu'il y avait... Tiens, les tarifs. Voilà. Ouais. Alors, qu'est-ce que ça raconte? Mais je crois que ça a un peu changé. Tiens, j'ai un article du Monde, là. Qu'est-ce que ça raconte? Cette salle d'inspiration Art Nouveau, c'est pour la buvette de la gare, isolée par une double porte, est le lieu des trêves politiques et des fraternisations transpartisanes. C'est vrai que c'est aussi un endroit où les élus se parlent assez tranquillement, quoi. Voilà. Donc on y sert de l'alcool, ça c'est confirmé, voilà. Et justement, quand les nouveaux députés de la Macronie, lors du premier quinquennat Macron, sont arrivés, ils étaient un peu en mode, ils étaient super jeunes, beaucoup, puis ils arrivaient de la société civile, ils disaient, voilà, on va pas picoler l'Assemblée, nous. Et puis finalement, je crois que d'après le Monde, ils sont allés, ils s'y sont faits, quoi. Là, on a un article de 2019 qui dit qu'effectivement la consommation a un peu baissé par rapport, par exemple, au quinquennat de Hollande. Voilà. Voilà. Alors, il faut dire que l'Assemblée s'est rajeunie aussi. D'accord. Bref, ça picole, quoi. Tiens, vous savez ce qu'on va essayer de faire? On va essayer de trouver les tarifs. Buvette Assemblée nationale, tarifs. Moi, je voudrais les tarifs. Ça coûte combien, le petit ballon de rouge? Oh, c'est... Zut. Ah, j'ai trouvé un article. Ah, 2010, c'est un peu vieux. Voilà. Un article du Nouvel Obs. C'est un peu vieux, mais bon, il y a eu l'inflation, mais alors, j'ai vu qu'il y avait des prix, là. On va essayer de trouver ça. À mon avis, c'est pas cher. Hein. Ah. Hop. 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 60 centimes de café. Bon, c'était 2010. Hein. 80 centimes pour la bière. Alors ça a dû augmenter un peu, mais 80 centimes pour la bière. Ouais, et ouais, hein. Quand certains disent, ah ouais, moi jamais je ferai de la politique et tout, c'est vraiment non, jamais, quoi. 2010, bon, ça a sûrement augmenté un petit peu, 80 centimes pour la bière, voilà. Ouais, mais c'est pas l'inflation pour tout le monde. Eh oui, bah oui. Voilà. Pourquoi? Parce que la buvette rappelle un fonctionnaire, hein, Elle n'a pas été installée pour faire du profit, mais pour désaltérer les parlementaires. Voilà. Ah, vous saviez pas ça, hein. T'as vu David, hein, c'est les jeunes, ils sont surpris. Bah. Mais oui, c'est, oui, j'ai une petite buvette à l'Assemblée, oh, c'est pas non plus. Castolo 9, merci pour ce 7e mois d'abonnement, bah, de quoi me payer quelques bières à la buvette de l'Assemblée. Merci, c'est super gentil. Donc maintenant, essayons de comprendre comment fonctionne ce truc, là, vous arrêtez pas de partir sur plein de trucs, c'est pas possible. Ça. Comment ça va se passer concrètement? 9 mois que Bercy, donc le ministère des Finances, la CNIL, Commission Nationale Informatique et Liberté, et l'ARCOM travaillent avec des sociétés spécialisées dans le numérique pour développer des solutions capables de certifier que la majorité des personnes sont dévoilées leur identité. Ça fait 9 mois qu'ils bossent là-dessus. Elles devraient voir le jour dans les mois qui viennent par le biais d'applications à installer sur son smartphone. Bah oui, mais enfin, tu regardes pas le porno que sur ton smartphone. Donc j'espère qu'ils ont prévu la même chose pour les PC. Enfin, bref. Un utilisateur d'un site pornographique. Ah, mais si, j'ai compris. La certification, ce sera sur le téléphone. Voilà. Ah ouais. C'est comme quand tu essaies de connecter à ton compte bancaire, par exemple, sur ton ordinateur, et parfois on te demande une certification sur ton téléphone. Ouais, ok, j'ai compris. Un utilisateur d'un site pornographique, lorsqu'il souhaite y accéder, devra certifier de sa majorité en cliquant sur cette attestation numérique, explique le ministre. Ça fonctionnera un petit peu comme le contrôle demandé par votre banque. Tiens, de quoi je vous parlais? Par votre banque lorsque vous réalisez un achat en ligne, sans que ce certificat de... Sauf que ce certificat de majorité sera anonyme. Des opérateurs télécoms qui disposent de l'âge de leurs clients, par exemple, pourraient être dans la boucle de ces dispositifs dont les accords ne sont pas encore finalisés. Le principe, donc, ce serait une appli sur le téléphone pour certifier que vous êtes majeur, un truc qui est relié en fait à un truc qui à votre âge, comme par exemple votre abonnement téléphone, voilà, où il y a votre date de naissance dedans. Voilà. Et donc, c'est un truc qui prouvera que vous êtes majeur, et en revanche, qui garantira votre anonymat. Voilà, c'est le principe. Je ne sais pas si ça va marcher comme ça. La France sera le premier pays au monde, cocorico, à proposer une solution comme celle-ci, dit le ministre, donc M. Barrot, en précisant que le décret doit être validé par la Commission européenne, par le Conseil d'État, donc ça pose quand même des questions juridiques. Je ne tourne pas la page 3, parce que la page 3, il y a une dame, on voit ses jambes, alors je me méfie de tout maintenant, et je vous lis. Bien tenté, ça va servir à rien, me dit Telou. Pour un mineur, ce sont les parents qui sont sur la facture téléphone. Ouais, mais non, si, non, mais ça, je pense que oui. Ouais. Pas très réaliste, ils vont trouver des moyens de passer entre les barreaux. Très bonne blague de Twitch de Pete, les barreaux. Très bien. Les FAI ne peuvent rien faire, le client, c'est l'adulte, c'est pas le mineur. Ah ouais. C'était comme très attentatoire aux libertés, dit Maltesor, mais la protection des mineurs justifie cette restriction. D'ailleurs, c'est pour ça que le Conseil d'État et la Commission européenne vont être saisis, je pense. La peur du traçage va rendre le truc complètement dissuasif, dit Defecator. Ah, faut trouver un nom, dit MacBig. Pourquoi pas Porno Connect? Pourquoi pas Porno Connect. Voilà. Rupture d'égalité, le smartphone n'est pas obligatoire en France que je sache. Ribos, bonne remarque. C'est pas faux. Ça m'a l'air très faussement anonyme tout ça, me dit Flo Dragon. Ouais, vous n'êtes pas convaincu, hein. Waouh, il y a Oli qui dit « J'ai peur que les jeunes se tournent vers des sites illégaux encore plus sombres. » Putain, vous avez détruit l'idée, quoi. Je vois pas comment ça peut être anonyme, dit Céline. Il y a tonton qui dit Étienne désemparé quand elle a cru que c'était pas possible sur PC. Et puis vachement. Vous êtes bête quand même. Hein. Bon courage pour faire appliquer ça, dit Linkinito. Ça va utiliser des VPN en masse, dit Utopie. Ouais, vous êtes pas convaincu, hein. Oh, pourtant, ça fait 9 mois qu'ils bossent sur le truc. Ils essayent, hein, ils essayent, je trouve ça que ça se salue quand même déjà. Ouais. Je vais essayer de trouver un message qui trouve ça bien. Rius m'a dit, j'ai vu un message avec lequel je suis d'accord. Est-ce que le drame, c'est l'accès au porno pour les mineurs ou est-ce que c'est le manque de prévention et de travail sur l'éducation sexuelle? Moi, je pense que c'est les deux. Bien sûr, prévention, bien sûr, éducation sexuelle, bien sûr, discours au sein de la famille sur ces questions. Mais je pense que l'accès au porno au moins de 10 ans, ou même moins de 12 ans en France, ouais, ça pose un problème, quoi. Mayan dit, bah, peut-être que ça peut être dissuasif pour certains enfants qui vont pas chercher plus loin. Ouais, peut-être. Il y a Carnage qui dit, je pense qu'il faut d'abord essayer de comprendre pourquoi les jeunes, slash très jeunes, vont voir du porno. Pour moi, c'est que l'éducation sexuelle décomplexée manque terriblement en France. Ouais, c'est vrai, sans doute. Ouais. C'est vrai. Ouais, c'est des sujets compliqués aussi à aborder par les parents. Moi, quand je lis des articles comme ça, je me dis, quand mes deux petits garçons vont être en âge de commencer à penser à ça, il va falloir que j'essaye d'un petit peu de leur en parler et tout. Bon, je pense que c'est pas le truc sur lequel tu es plus à l'aise en tant que parent, quoi. En vrai, hein. C'est à faire, quoi. Je suis pas sûr qu'en France, on soit très très calé là-dessus, quoi. Je sais pas s'il y a un pays au monde, d'ailleurs, où on l'est plus. Ouais, en tout cas, vous n'êtes pas convaincu sur le truc, hein. Ouais, c'est vrai, ce que tu dis. Il y a XG qui dit, les jeunes n'ont même pas besoin d'aller sur un site porno. Il suffit d'aller sur Twitter, Reddit, Telegram. Et moi, sur Twitter, je me balade parfois. Enfin, Twitter, je scrolle toute la journée parce que pour moi, c'est un site intéressant pour m'informer et puis faire des conneries aussi, faire des blagues pourries. Mais il n'y a pas une journée où en scrollant, je tombe sur un moment, un truc. C'est fou, quoi. Twitter, il y a zéro. Enfin, j'ai l'impression que tu peux poster n'importe quoi sur Twitter, quoi. Donc moi qui suis une âme pure, vous le savez, et qui cherche des informations sur la réforme des retraites, sur tout ça, et vraiment t'arrives sérieux quoi, ouh là, tu piques les yeux quoi. TikTok c'est pire encore? Ah bon? Toi je connais pas ça. Il y a Marty qui dit TikTok c'est pire encore. Sur TikTok, il y a des débats. Certains disent que c'est pire, d'autres qui disent qu'ils n'ont pas trouvé. Ouais. Enfin, parfois, je suis entre deux tweets sur les retraites, donc sur les trucs qui. Voilà. Oula! La dame, elle n'a pas l'âge de la retraite, là. Ça, c'est pas une illustration de la réforme des retraites, ça. Non. Je ne vois pas du tout ce que cette activité vient illustrer la question du nombre de trimestres à cotiser. Madame, je vois bien que vous n'êtes absolument pas concernée par ce débat. C'est beaucoup plus dans longtemps pour vous. Et vous, monsieur aussi. Ou messieurs d'ailleurs. Voilà, bon, je fais attention aux pages. Tiens, j'enlève la caméra zénithale là. Voilà. Pour me faire avoir encore. Bon, bah voilà, le débat il est là. Quand vous allez voir arriver ces trucs là dans quelques jours, quelques semaines, quelques mois ou à la rentrée, vous penserez à notre lecture d'aujourd'hui. Andy, c'est son prénom. Capé, c'est son nom de famille. Andy Capé. Merci pour ce deuxième mois d'abonnement. Castolo9, merci pour le septième mois d'abonnement. Là, j'ai une petite page réforme des retraites. Voilà. Je ne vais pas vous enquiquiner trop avec ça ce matin. Je vais juste vous raconter que ça arrive à l'Assemblée. Je vais vous lire deux, trois trucs quoi, pour vous dire où on en est de ce débat qui est assez important. Voilà. Et après, on lira ce truc de fou là. Sur l'affaire de ce journaliste de BFM qui a été retiré de l'antenne, soupçonné d'avoir reçu des sous, de la thune en liquide, notamment du régime marocain, pour faire passer des infos, comment dire, favorables au régime marocain. Je n'ai jamais vu ça en 29 ans de journalisme en France. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ouais, on ira ça. Ouais, intéressant de voir sur quoi portaient ces infos d'ailleurs. Ouais, notamment le Sahara. Ouais, le Sahara. Ouais, exactement. Bah oui, depuis tout à l'heure, je vois des gens qui me disent: est-ce que tu veux parler du séisme en Turquie? Il y aurait plus de 1000 morts. En fait, hélas, il n'y a rien à vous dire là-dessus parce qu'il n'y a aucune analyse à faire. C'est dramatique ce qui vient de se passer. On a commencé ce matin, France Info, à vous parler de ce séisme en Turquie. Alors, l'épicentre est en Turquie, mais je crois qu'il y a des victimes aussi en Syrie. Donc, on a parlé de 200 morts, 200. Et plus la matinée avançait, et plus ça montait 200, 300, 400, 500. Là, on parle de 1000 morts. Et je pense, hélas, que le bilan va être beaucoup plus lourd, parce que historiquement, les séismes dans la région, les bilans ont été extrêmement lourds. Bon, bah, après, ça, c'est pas. Il n'y a aucune analyse plus-value à vous donner dans la presse. Ça, c'est de l'info brute que vous avez partout, sur toutes les radios, les sites internet, les chaînes d'infos en continu. Donc voilà, hélas, il n'y a rien à dire, sinon que la nature est parfois extrêmement violente et que bah, y a des zones du monde où, évidemment, on ne construit pas selon les normes sismiques, comme les pays plus riches, comme le Japon, par exemple, ou même le Chili, qui est une terre qui tremble beaucoup. Waouh! Ben merci, je vais te remercier dans un instant. Moi, j'ai passé un peu de temps au Chili. Je me suis pris un tremblement de terre assez violent, d'ailleurs, sur la tête à Santiago, il y a quelques années. Et la plupart des immeubles de la ville n'ont pas bougé, alors que ça a été super destructeur dans les petits villages et très meurtrier, parce que bah, tout dépend des bâtiments, quoi. Au Japon, ça tremble de partout, tout le temps. Mais comme c'est les normes de construction antisismique sont drastiques, ben, voilà, y a zéro mort, quoi. Donc, que vous dire là-dessus? Que vous dire là-dessus? C'est là, on est dans l'émotion et la tristesse, quoi. Mais voilà. Je peux lire quelques messages parce que je vois que certains ont bossé sur le sujet quand même. Je remercie Unknown My FX No qui vient d'offrir quand même 10 abonnements à la commune. C'est super gentil. Merci vraiment de tout soutien. C'est super sympa. Et je vois par exemple que Vrael me dit que ça fait des années que les sismologues s'attendaient à des gros séismes dans la région parce que la faille d'Istanbul avait accumulé une énorme énergie de faille. Oui, 7,8, ça c'est la force de ce séisme sur l'échelle de Richter, c'est ce qu'on a évoqué ce matin sur France Info. Voilà. Alors le bilan, moi ce qu'on se disait ce matin sur France Info, c'est qu'il allait devenir de plus en plus lourd au fil des heures. On est parti de 200, 300, 400, 500. Là, on parle de... My Little Trip me dit 912 morts en Turquie, 326 en Syrie. Je pense que ça va être beaucoup plus lourd, hélas. Peut-être plusieurs milliers de personnes, quoi. Voilà. Voilà. Après, si je vous trouve un article un peu sur le fond, pourquoi ça a tremblé là, pourquoi dans ces zones où, a priori, on attend des tremblements aussi forts, aussi meurtriers, pourquoi... Ça ne construit pas plus sur des normes antisismiques, justement. Bah, je pense que la réponse, elle est évidente. Hein, c'est une question de développement et de richesse, bien sûr. Donc, si je trouve un article un peu de fond là-dessus, je vous le mettrai de côté. Mais là, ce matin, à part l'émotion de penser à toutes les victimes en Turquie et en Syrie, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Voilà. Ouais. Hélas. Hélas. Ouais. Bon, les amis, la bataille des retraites, nouvel épisode, je vous fais ça dans un instant. Cette histoire complètement folle de BFM, on va prendre un petit peu le temps aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe. C'est aussi une nouvelle façon d'échanger sur mon métier. C'est quand même un truc qui est chaud, quoi. On me parle d'une réplique à l'instant, de ce séisme à l'instant. Hop, je vous mets une petite pause. Je vais juste remplir le café, parce que la journée va être longue et sympa, mais longue, avec plein de petites choses ce matin. Je refais un petit café et je vous retrouve dans 3 minutes. Oh là, oui, c'est vrai que j'ai ma petite émote animée qui est arrivée depuis ce matin que Papy Pain nous a fait. Merci LTD. Voilà, nouvelle émote animée de Papy Sam qui est en train de boire son café. Donc, je vous mets une petite pause de 3 minutes. 3 minutes de musique pour les abonnés. 3 minutes de pub pour ceux qui ne le sont pas. Ça va me payer mon petit café. Je ne vous mets pas la page 3 du Parisien pendant mon absence, faut pas déconner. Et ouais, trop cool cette émote. A tout de suite. C'est bien ça la musique, hein? Ouh! Ouais! C'est c'est cool, ça c'est... Un petit peu de douceur, ça fait plaisir. Allez, c'est reparti. À tout de suite. Et vous aussi, hydratez-vous. Hein, à tout de suite, les amis. Merci d'être là, c'est super sympa.
Don't have-
Pas mal ça. Et 3, 2, 1. Ah, désolé, je remplace cette douce musique par la voix de Papy Sam. Comment ça va? Est-ce que vous êtes hydraté? Est-ce que vous êtes allé prendre un petit café, un petit thé matcha, un petit jus, une petite bière, une petite vodka, 11h51 du matin, un petit verre d'eau? Un petit verre d'eau, ouais. Ouais. Un petit gâteau au chocolat pour la route, céréales, ça c'est bien, ça c'est très très bien. Ouais, un petit rosé, une petite quiche. Ouais, un café numéro 1000, toujours pas réveillé. C'est quoi un café numéro 1000, Fanny? C'est la force de ton café? Un smoothie protéiné? Ouais, il y en a qui vont à la salle là. Hein. Un maté, une petite bière, un petit whisky de 11h, ok, pas de souci. Ok. Ouais, un thé vert à la rose et fraise. Ok. Une bière à 80 centimes. Ah bah, il y a un député qui nous regarde ce matin. Ah, ça vous a fait marrer ça. Une bière à la buvette, c'est parti. Biscuits trempés dans le chocolat chaud. Il y en a qui se font plaisir, hein, la beloutre. Merci Ronan pour ce. J'espère que tu vas bien. 10e mois d'abonnement. Merci à Sido775 pour le 18e mois. Ah, j'avais pas vu. Donc, petit badge café aussi. Mononeurone, merci pour le 13e mois, c'est adorable. Et encore merci à Unknown tout à l'heure qui nous a envoyé 10 abonnements à la commune. Merci, c'est super gentil. Ok. Oh là là, sa cuisine. Un risotto champignon poireau du côté de Ducati Macaron. Des frites de patates douces du côté de Fabid. Oh, c'est beau. Ça va manger de la brioche à la praline. Ah. C'est beau. C'est beau. Oh, il y a Pépipin qui est là. What? Je vois quelqu'un qui parle à Pépipin. Elle est là, Pépipin. Elle est là. C'est toi qui parlais de brioche à la praline, j'avais pas vu. Allez, follow cette chaîne. Pépipin. P-E-P-I-P-1. Voilà, la meilleure graphiste, la meilleure illustratrice, la meilleure artiste, la meilleure streameuse du Twitch français. Et c'est elle qui vient là de m'envoyer cette nuit ou hier soir, j'ai pas vu, je me couche tôt. Voilà, elle est là, cette nouvelle émote animée regarde, de Papy Sam qui boit son café. Oh là, tout le monde la trouve géniale, cette émote. Merci à toi. Voilà, exactement. Merci beaucoup. C'est super. C'est cool de t'avoir dans cette aventure, dans mon petit univers. C'est vraiment un des trucs qui me font bien plaisir. Voilà. Est-ce que je cuisine? Me demande Cyril. Oui. Là, j'ai eu Solal pendant 3 jours tout seul à la maison. Hélène était partie avec Malo en week-end. Et donc, là, Solal, il a mangé des spaghettis bolognaise pendant 3 jours. À tous les repas. Avec du surimi. À tous les repas aussi. À la fin, il n'en pouvait plus. Hein. Il ne voulait plus de spaghettis. Voilà. Et dimanche après-midi, il a eu une crêpe au Nutella aussi. Qu'on a acheté au parc. Voilà. Des quoi? Des légumes? Ben, dans la sauce de la bolognaise, il y a de la tomate. Ouais. Ah non, mais le surimi, c'était pas dans la bolognaise, c'était à côté. Il adore le surimi. Ouais. Un petit McDo aussi. Ben non, on mange équilibré. Non. Ouais. Ah, tomate, c'est un fruit. Ouais, c'est pareil. Bah oui, ça va. Non, mais il mange des légumes toute la semaine avec la nounou, donc le week-end, c'est la teuf. Tiens, il y a Dubman Aéré qui nous rappelle que la pizza est considérée comme un légume dans certains pays. Merci, heureusement que t'es là. Pâte égale blé égale légume, me dit Dounis. Théoriquement, c'est pas une céréale. Enfin bon. Quoi? Il faut varier les légumes? Quoi? Moi je mange jamais de légumes. Regarde l'engin, quoi. Regarde, sérieux. Moi je me nourris de café essentiellement et puis un peu de pain. Et puis de temps en temps, je suis mon amoureuse sur la junk food. Elle aime bien les petits hamburgers, trucs comme ça. Je crois que je mange pas trop de légumes en vrai. Regarde le thym. Tu vois? Hein? Et je dors pas. Donc, imagine si je mangeais des légumes. Hein? Eh ouais, il a pas changé en 20 ans, me dit Héro. C'est vrai que c'est. Je sais pas, on se rend pas trop compte. Si, peut-être les rides quand même un petit peu. Les bons conseils de tonton Sam. Ah bah moi, en termes d'hygiène de vie, avec moi, vous êtes top, quoi. Bon, ouais, j'arrête de vous raconter ma life, je suis désolé. C'est parti. Maintenant, une petite page. Réforme des retraites. Hein. Pas trop grosse, pas trop grosse. On va pas se faire 2 heures tous les jours de réforme des retraites. Mais enfin, elle arrive à l'Assemblée, donc il y a 2-3 trucs à raconter. On devrait faire un jingle d'ailleurs. Réforme des retraites, vu que c'est un peu tous les jours là. Réforme des retraites, réforme des retraites, réforme des retraites, réforme. Un truc comme ça un petit peu, voilà. Un truc que avec Poulpe, on pourrait s'enregistrer un petit slogan comme ça. Réforme des retraites, réforme des retraites, réforme des retraites, réforme. Non, pas besoin d'émotes. Il y a Incognito qui dit il faudrait faire une émote réforme des retraites. Ben non, je pense que les émotes habituelles de Papy Sam, ça marche très bien avec la réforme des retraites. Ah, vous connaissez les Octonautes? Ah, j'adore, il y a TVA qui dit « Ah, je connais ces octonautes !» Il y a Clément Polito qui se disait « Je connais cette terre, c'est quoi déjà ?» C'est la minute scientifique des octonautes. Minute scientifique, minute scientifique, minute scientifique, minute scientifique. J'adore, j'adore. C'est super hein, comme dessin animé, vous ne connaissez pas, pour les petits. En fait, c'est à la fois, il y a un truc, des trucs un petit peu sur la science, une petite initiation à la biodiversité et tout, c'est super. Minute scientifique. Excusez-moi, désolé. Allez, réforme des retraites. Bon, bah c'est parti, donc la bataille de l'Assemblée, regardez, c'est pas tout à fait le même journal, mais les mêmes mots finalement, la bataille des retraites qui s'engage à l'Assemblée. Donc ça, c'est ce que dit Libé, le Figaro dit ça aussi, la une des Échos, c'est aussi sur cette arrivée à l'Assemblée de la réforme. C'est la minute sous-marine. Ah merde, c'est pas la minute scientifique, c'est la minute sous-marine. C'est pas minute scientifique, c'est minute sous-marine. Ah oui, merde, c'est minute sous-marine, je crois. Minute sous-marine. Minute, ah oui, c'est vrai. Merde, oh la honte. Pardon, putain, je suis nul. Putain, je suis un père indigne. Le père qui donne des spaghettis bolognaises pendant 3 jours à son fils avec du surimi et qui se gourre sur les chansons, quoi. Des minutes sous-marines. Voilà, comme c'est un peu scientifique, je me suis trompé. Non, c'est pas sous Marine Le Pen, ça n'a rien à voir avec le Rassemblement National. Arrêtez avec vos blagues, là, c'est pas possible, c'est pas possible. Vous me fatiguez, je peux plus. Ah. Voilà, c'est la une de l'opinion aussi. Puis un petit peu de sport, mais on lira surtout ce truc de fou sur ce journaliste BFM qui est soupçonné d'avoir accepté de la thune, du cash, de l'argent liquide pour, dans son journal, faire passer des infos qui vont dans le sens du régime marocain. Bye, 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 c'était sur BFM. On va lire ça, c'est dans l'Humanité. Enfin, c'est un peu partout, mais il y a un dossier dans l'Humain. D'abord les retraites. La bataille de l'Assemblée. Voilà, vous avez à droite François Ruffin, à gauche Olivier Dussopt, le ministre du Travail. Petit soupçon de favoritisme dans une attribution de marché public il y a quelques années quand il était député maire d'Annonay, on en a parlé ce week-end. Bon, on va pas en reparler ce matin, mais on s'est mis ça de côté. Et on va lire l'édito d'Alexandra Schwarzbrod ce matin dans Libération qui parle d'une pétaudière. Elle dit que l'Assemblée, en ce moment, c'est une pétaudière. Décidément, il n'y a rien qui va dans cette réforme des retraites, nous dit Alexandra Schwarzbrod. Libération, c'est un journal qui se dit clairement contre cette réforme. À la veille d'une semaine clé pour l'avenir du projet, entre début de l'examen du texte à l'Assemblée ce lundi et journée de mobilisation demain mardi et samedi prochain, 2 journées cette semaine, eh bien l'exécutif a enchaîné déconvenus et mauvais signaux à l'adresse des mécontents. D'abord, l'exécutif a dû encaisser l'annonce d'une infraction de favoritisme dont je vous parlais à l'instant, retenue par le parquet national financier contre le ministre du Travail, Olivier Dussopt. Si vous intéresse, on en a parlé genre une heure hier dans la matinée Étienne, hier dimanche. Une nouvelle qui ne pouvait pas tomber au pire moment puisqu'elle fragilise celui qui est devenu un petit peu le monsieur réforme du gouvernement. Puis il a dû affronter les réactions cinglantes de la droite et de la gauche à cette interview accordée par Elisabeth Borne dans le journal du dimanche. Sur des concessions hein, sur cette réforme, pas tellement en direction des Français, mais plutôt des députés de droite LR pour qu'ils votent cette réforme. Si ça vous intéresse, on en a parlé très longuement hier dans la matinée Étienne, c'est en replay sur Twitch et sur YouTube. Donc, je lis cette phrase. Il a dû affronter les réactions cinglantes de la droite et de la gauche à cette interview d'Elisabeth Borne au JDD dans laquelle la Première Ministre propose une mesurette destinée à amadouer les députés LR pour obtenir leur soutien lors du vote. L'exécutif voudrait braquer toutes les oppositions qu'il ne s'y prendrait pas autrement. Bon, après, il y a la bataille des amendements, tout ça. Bref, Libé nous dit que c'est une pétaudière. L'ensemble de la séquence donne l'impression d'assister à une effroyable pétaudière. dont on ne voit pas bien pour l'heure qui pourrait sortir gagnant, à l'exception peut-être de l'extrême droite, qui lentement mais sûrement, et sans en avoir à faire des tonnes, capitalise sur la colère qui monte dans le pays. Et c'est peut-être pas complètement débile ce que dit Libération là-dessus. C'est quoi une pétaudière, littéralement, pour être précis, pétaudière définition. C'est intéressant. Larousse. Pétaudière. Une assemblée, pas forcément parlementaire, mais une assemblée, un groupe quoi, un organisme où règne la confusion et l'anarchie, le désordre, dit My Little Trip, exactement. Voilà. Donc Libé trouve que c'est le pétaudière, on va dire le bordel, hein, le boxon. Et Libé revient aussi sur ses concessions annoncées hier dans le journal du dimanche par Elisabeth Borne. Concessions en direction pas tellement des Français. Le gouvernement semble avoir fait le deuil de l'idée de convaincre les Français de la nécessité et du côté juste de cette réforme. Donc, plus modestement, le gouvernement, vous l'avez peut-être compris, essaye de convaincre un nombre suffisant de députés au sein même de la majorité et du côté de la droite, du côté des LR, de voter ce texte pour que y ait un vote à l'Assemblée et non pas un 49-3. Elisabeth Borne fait un pas en arrière, mais LR maintient le bras de fer. Lisons cette histoire. En faisant une concession partielle aux députés LR, la Première Ministre pensait s'assurer de leur vote, hein, ce week-end. Ah, mais une partie d'entre eux ne sont toujours pas convaincus et demandent un geste plus fort sur les carrières longues. Alors, Libé parle du député Pradier. C'est quoi, c'est Aurélien? Pardon, excusez-moi de tousser. C'est Pradier, c'est Aurélien Pradier, c'est ça? Aurélien, c'est ça. Donc, qui est député LR, voilà, secrétaire général des Républicains, d'ailleurs, Aurélien Pradier. Ah, il n'était pas candidat, d'ailleurs, à la tête de LR, je crois bien, quoi. Et donc, les Libérations nous parlent d'Aurélien Pradier, voilà. Pourquoi? Parce que, en fait, il conditionne son vote en tant qu'élu LR, et celui d'une partie de ses collègues, d'ailleurs, de droite, à une concession de l'exécutif sur les carrières longues. Il est un peu à la pointe de ce combat. Il réclame quoi? Que les actifs ayant commencé avant 21 ans puissent partir dès leurs 43 années de cotisation et non à l'âge légal de 64 ans. Je vous explique l'histoire. Ceux qui suivent ce dossier, vous le savez sûrement, mais je le rappelle pour les autres, la réforme, c'est on passe de 62 à 64 ans, âge légal de départ à la retraite. Et par ailleurs, on augmente le nombre de trimestres à cotiser pour avoir une retraite à taux plein. C'est ce qu'on appelle la réforme Touraine, accélération de la réforme Touraine. Voilà. Sauf qu'il y a un trou dans cette réforme, un truc qui ne va pas du tout. C'est-à-dire que, en gros, personne ne devra travailler plus de 43 ans, d'accord, hein, pour avoir une retraite à taux plein. Sauf que, il y a un truc qui est mal fait dans cette histoire. Les gens qui auront commencé à travailler tôt, eh bien, certains, avec la réforme actuelle, vont devoir travailler 44 ans. Voilà, 44 ans de cotisation. Ils auront commencé à travailler tôt, souvent dans les métiers durs, et en plus, ils devront cotiser plus longtemps que les autres. Alors, du côté de la droite, pas les syndicats et la gauche, hein, du côté de la droite, il y a des élus qui disent « Non, les gars, c'est pas possible. C'est pas possible, on peut pas faire comme ça une espèce d'inégalité. Si on dit que c'est 43 ans max de cotisation, hein, eh bien, c'est 43 ans max pour tout le monde. » Donc, le LR essaye d'obtenir des concessions là-dessus. Justement, Borne, ce week-end, a dit « Ok, on va bouger là-dessus », en précisant hier dans la presse que ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 21 ans pourront partir à 63 ans, conformément aux règles prévues par le dispositif. Mais sur Twitter, hier soir, Aurélien Pradier, dont le député dont je vous parlais, a renvoyé la Première ministre dans ses cordes. Comment un travailleur qui débute à 20 ans pourrait valider 5 trimestres avant ses 21 ans, comme l'impose le dispositif carrière longue? Bah oui. Combien il y a de trimestres dans une année? 4. Voilà. Et dans la réforme, il faut 5 trimestres validés actuellement. Voilà. Alors comment en un an tu valides 5 trimestres? Aurélien Pradier, il dit, tu serais pas en train de te foutre de ma gueule un petit peu? Voilà. Donc il le dit autrement, il dit, cette annonce est une tromperie qui ne respecte ni LR ni les Français. Voilà. Bon, en fait, il dit, tu es en train de te foutre de ma gueule. Donc vous l'avez compris, la droite veut des concessions sur l'index senior dans les entreprises, on en a parlé hier, sur le nombre de trimestres cotisés pour les gens qui ont commencé à travailler tôt. Alors ça peut vous sembler un peu surprenant d'ailleurs, hein, vous semblez un petit peu surprenant. Pourquoi c'est la droite ? Pourquoi ce sont les députés de droite qui historiquement ont porté quasiment toutes les réformes des retraites ? Il y en a eu 4, d'ailleurs en 25 ans, il y a eu 4 réformes des retraites. Voilà. 4 réformes des retraites, il y a eu la réforme Touraine, mais 4 réformes des retraites qui ont été menées par des gouvernements de droite pour faire des économies, etc., pour faire travailler les gens plus. Pourquoi c'est les députés de droite qui demandent ces concessions ? Ah, parce que ces députés de droite, ce sont des élus nationaux, mais qui ont été élus dans des circonscriptions. Et ces députés de droite, parfois, ils ont été élus dans des circonscriptions impopulaires, et les gens, les électeurs, les gens qu'ils rencontrent sur le marché, leur disent... Votre réforme, ça ne va pas le faire. Là. Si vous votez, monsieur le député, cette réforme, à la prochaine législative, ma voix s'éteint. Hein, quoi. Et donc, ces élus locaux disent, attendez, cette réforme, il faut... Donc, c'est assez intéressant, quand même. Et du côté du gouvernement, on râle un peu, parce qu'à la base, dans le programme de Valérie Pécresse, qui est la candidate LR, la dernière présidentielle, La réforme des retraites proposée par la droite, elle est plus dure. Elle est plus dure. Eux, ils demandaient 65 ans. 65 ans et pas 64. 65 ans pour l'âge légal de départ à la retraite. Donc là, du côté du gouvernement aujourd'hui, du côté de Borne, on est en train de râler aussi en disant « Ah, dis donc, la droite, vous êtes gentil. Hein. Mais à la base, votre projet, il est plus dur que le nôtre. Quoi. Et maintenant, vous demandez des concessions pour qu'il soit moins dur. Politique, politique, politique. Voilà. Bon, ça, c'est Libé. Hop, je range Libération. Et je prends le Figaro, qui fait le même constat que la bataille des retraites donc, s'engage à l'Assemblée. Voilà. Début de l'examen du projet de loi, c'est parti. L'opinion très défavorable, toujours, ça n'a pas changé. Vraie question, quelle mobilisation... Merci Jack Dalton pour le message. Quelle mobilisation demain, hein, pour cette nouvelle journée d'action ? Vous savez, cette semaine, il y a deux journées d'action. Il y a demain et il y a samedi. Donc ça, c'est une vraie question, hein, qui va vraiment peser sur le débat. S'il y a une nouvelle journée de très forte mobilisation demain, ça va peser sur le débat à l'Assemblée, ça va renforcer les syndicats dans leur opposition, ça va affaiblir le gouvernement, bien sûr, bien sûr. À l'inverse, s'il y a un début de fléchissement dans les manifs, dans les grèves, ben c'est l'inverse, bien sûr. Donc ça, c'est quand même vachement intéressant. Il y a deux journées, il y a demain et il y a samedi. On verra. En attendant, le Figaro écrit « Si la bataille de l'opinion semble définitivement perdue pour l'exécutif, celle du Parlement est encore gagnable. Ils peuvent encore trouver une majorité pour voter ce texte, voilà, et donner une forme de légitimité à ce texte, parce qu'ils pourront dire bah, « Vous voyez que notre texte il a été voté par l'Assemblée, donc voilà, en mode circuler, il n'y a rien à voir. » quoi. À la condition que la plus grande partie des députés LR se rangent derrière le gouvernement. Le Figaro, c'est un journal qui ne cache pas du tout son soutien à cette réforme, voilà, c'est un journal qui dit « il faut faire cette réforme, elle est inévitable », avec cet argument considéré comme massue par les partisans de la réforme des retraites. On a un problème de pyramide des âges, on a des générations très nombreuses qui arrivent à la retraite, voilà, alors qu'on a un nombre de cotisants, de salariés qui est réduit, donc peu de cotisants, beaucoup de retraités, il faut absolument du coup que les gens travaillent plus. Sinon, le système se casse la gueule. Bon, on en a parlé des heures et des heures et des heures et des heures. Certains estiment que oui, peut-être qu'il y a un déficit qui arrive effectivement. Mais ce déficit, on peut le financer d'une autre façon que par l'augmentation du temps de travail des Français. On ne va pas avoir ce débat qu'on a déjà eu 1000 fois. Le Figaro pense que cette réforme est impopulaire mais nécessaire. Repousser l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans ne peut pas être populaire. Qui a envie de travailler plus, hein ? Et pourtant, cette mesure est nécessaire si les Français veulent conserver leur système de retraite par répartition auquel ils se disent très attachés. C'est mathématique pour le Figaro. Bon, c'est aussi l'analyse du gouvernement. Hop, pour la peine d'y passer des heures, on en a parlé pendant déjà des jours sur cette chaîne. Ah, il y a Kilabis qui dit « Moi, j'ai taffé à l'étranger, perso, je suis foutu de base. » Ça, j'ai quelques potes qui ont fait quasiment toute leur carrière à l'étranger. Je me suis toujours demandé, d'ailleurs, comment ça se passait pour eux pour la retraite. Moi, j'ai un pote, par exemple, qui est en Amérique latine là, depuis genre ses 25 ans. Et lui, il m'a dit, comme il bosse pour une boîte française, en fait, il cotise en France. Mais j'ai l'impression pour d'autres potes français qui bossent pour des entreprises étrangères, de droit local et tout, je me dis que pour le coup, toujours demander ce qu'ils allaient avoir comme retraite. Ça va être chaud, hein. Bah, s'ils cotisent en France, ça marche, me dit Angélique, c'est ça, ouais. Ça dépend des boîtes, en fait. Ouais, c'est pour ceux qui cotisent pas en France que je me pose la question, ouais. Mais tu peux cotiser volontairement en France, d'accord, ok. Ah ok, ah ouais, je savais pas ça. On peut racheter ses trimestres aussi, ok, ouais. Il y a des équivalences aussi au sein de l'Union européenne, me dit JB, mais c'est compliqué. Ah, ok. Sinon, il faut capitaliser sur place, dit petite trash. Ok. Mais comme tu. Oui, si tu cotises pas, tu peux économiser du coup 10 spatules. Toujours de poser cette question, moi. Super Mario dit, bah, en fait, tu cotises, mais sur la base du volontariat, notamment, d'accord. Il y a aussi des accords avec pas mal de pays, des formes d'équivalence, mais c'est compliqué. Hein, je savais pas tout ça. Bon, en même temps, j'ai pas prévu de bosser à l'étranger. Voilà, c'est pour les potes plutôt. Bon ben, Borne joue l'ouverture, c'est la une des échos, on va rien apprendre. On va rien apprendre dans cette une, mais on va apprendre des choses dans cette interview de Laurent Berger, parce que les échos donnent la parole et pas qu'un peu. À Laurent Berger, le patron de la CFDT, donc donne la parole à un des opposants les plus farouches à cette réforme, voilà. Et les Échos ont eu la bonne idée de lui demander ce qu'il pensait de ces concessions qui viennent d'être concédées par Elisabeth Borne. Et il dit, bah c'est nul. Voilà. Ce ne sont pas des rustines qui vont changer un projet de loi injuste et brutal. Hein, le JDD. Demande à Laurent Berger que vous voyez ici. Carrière longue étendue jusqu'à 21 ans, sanctions financières renforcées sur l'index senior, on en parlait hier matin. La Première ministre a annoncé dimanche dans le JDD plusieurs concessions supplémentaires. Est-ce que ça change votre jugement sur la réforme? Est-ce qu'en gros, est-ce qu'on peut arrêter de manifester en gros? Réponse de Laurent Berger. On voit bien que ce sont des rustines qui ne vont pas changer un projet de loi injuste et brutal. Rien n'est annoncé pour exonérer les salariés nés en 61-62 de la réforme. Il faut retirer le décalage de l'âge à 64 ans, rediscuter de ce projet de réforme par le bon bout, le travail. Donc on voit que CFDT, qui est syndicat réformiste, qui n'est pas le plus en pointe sur les combats sociaux, hein, au contraire de la CGT par exemple, mais qui participe d'une unité syndicale qui est quand même intéressante, manifestement n'est pas prêt à lâcher avec ses concessions. Ça, c'est intéressant. Et là, les échos, bonne interview de Leïla de Commarmont, disent à Laurent Berger. Et, alors ok, on a bien compris que les concessions, ça n'allait pas. Et si on s'arrêtait à 63 ans? Et si le report n'allait pas de 62 à 64, mais de 62 à 63 ans, hein, pour l'âge légal de départ à la retraite? Avec une clause de revoyure en 2027. Et on refait le point en 2027. Qu'est-ce que vous en penseriez? Et là, je me dis, il y a un nouveau scénario qui s'est ouvert dans ma tête. What? Le gouvernement pourrait accepter de repousser que d'une année l'âge légal de départ à la retraite? Ce serait possible, ça? Alors, qu'est-ce que répond Laurent Berger? Et je trouve ça intéressant parce qu'on sent qu'il est un petit peu ennuyé, là. Il semble que pour. Il donne pas sa réponse vraiment. Il dit, il semble que pour le gouvernement, ce n'est pas une solution acceptable et que ce ne sera jamais une. Il répond pas pour lui. Il dit, oh, ben, le gouvernement va pas proposer ça. Plutôt que de coller des rustines alors que le système fuit de partout, pourquoi ne pas repartir sur de nouvelles bases en commençant par se poser la question des mutations du travail? J'ai l'impression qu'il botte un petit peu en touche là, Laurent Berger. Et j'ai l'impression que si jamais le gouvernement accepter de passer de 62 à 63 et pas de 62 à 64, un syndicat comme la CFDT pourrait peut-être dire dans ce cas-là, ok quoi. Voilà. Bon après, de l'avis général, le gouvernement n'est pas du tout prêt à faire cette concession-là. Pour le coup, les économies souhaitées par l'exécutif sur cette réforme des retraites seraient carrément. Quoi? Il y a Mademoiselle Sonny qui est là? What? Il y a Pépin qui est venu nous voir tout à l'heure et on me dit que Mademoiselle Sonny est avec nous. Mademoiselle Sony, je remonte dans le chat. Où es-tu? Bonjour à tous! Salut, comment tu vas? Mademoiselle Sony, Il faut que je t'invite à la maison pour une nouvelle hebdo, Étienne. J'ai prévu de t'inviter, je te l'ai pas dit encore. Mais... Alors, je sais pas si tu as très très envie de nous donner ton sentiment sur la réforme des retraites, si tu as envie de venir à la maison parler de ça. Bon, il y aura pas que de ça. Ouais, mais si dans les prochaines semaines je t'invite et que tu veux bien venir à la maison, on sera peut-être amené à en parler. Ça t'inspire un petit peu la réforme des retraites, mademoiselle Sunny? Dis-nous. Allez, 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 follow cette magnifique chaîne de mademoiselle Sunny. Qu'est-ce que tu dis? Voir si t'es un petit peu inspiré ou pas. Ce sera un des thèmes, ce sera pas le seul thème, bien sûr. Mademoiselle Sunny, mademoiselle Sunny, dis-nous si tu veux débattre de la réforme des retraites. Minute sous-marine, minute sous-marine, minute sous-marine, minute sous-marine. Oh, mais... Elle est pas là, mademoiselle Sunny, elle est partie se faire un thé. Je la vois plus. Elle est plus là. Ou alors elle est en train d'écrire un énorme pavé sur la réforme des retraites, ou alors de démarrer ChatGPT pour répondre à sa place. C'est ça, en fait. Non, à mon avis, elle est en train de démarrer ChatGPT, elle va nous pondre un truc énorme. Bon, si vous voyez mademoiselle Sunny écrire une thèse, antithèse, synthèse sur le sujet, faites-moi signe. À mon avis, elle est partie chercher un petit café. Elle a fui, tu l'as fait peur avec tes chansons. Donc voilà. Ah, et puis une dernière chose sur la CFDT. Donc vous avez compris que la CFDT est opposée à cette réforme, hein, comme d'autres syndicats. Et donc les échos disent, d'accord, mais alors vous proposez quoi? Et Laurent Berger répond, la CFDT est d'accord pour dire qu'il y a un déficit à combler, on va d'ailleurs faire des propositions pour y parvenir, comme la hausse des cotisations pour les entreprises, notamment celles qui ne jouent pas le jeu pour l'emploi des seniors, mais le déséquilibre, comme le souligne Lecor, ne menace pas la pérennité du système par répartition, et on ne peut pas faire comme s'il n'y avait pas eu des réformes très dures déjà depuis 30 ans. Donc, Laurent Berger dit, il y a d'autres façons de réduire ce déficit, et de toute façon, le système n'est pas si en danger que ça. Voilà. Odile me demande, mais qui est mademoiselle Sunny? Quelqu'un répond, une streameuse géniale, c'est là. Bonne réponse, Indikay, salut, j'espère que tu vas bien. Et maintenant, cette histoire de fou. Vous avez bien fait de rester, parce que là, c'est l'histoire la plus what the fuck que j'ai vue dans la presse depuis belle lurette. Belle lurette. Bon, l'histoire des retraites, ok. Bon. On va fermer la page retraite, on aura l'occasion d'en reparler. Soupçon d'ingérence marocaine à BFM TV. Le présentateur Rachid Barki a été écarté de l'antenne, écarté de présentation, écarté des plateaux. Il aurait, c'est ce que dit l'Humanité, mais c'est aussi ce que soupçonne la direction de BFM, reçu de l'argent en échange d'un public reportage, c'est-à-dire des infos pour faire plaisir, quoi. Favorable au régime marocain. Je n'ai jamais vu une histoire aussi grave dans le journalisme français en 29 ans dans ce métier. J'ai jamais vu un truc aussi grave. Trof hors d'urine, merci pour le prêt. À supposer que ce soit avéré, à supposer que ce soit vrai, bien sûr, on va rester extrêmement prudent sur ce truc. Peux-tu réexpliquer, Samuel? Bien sûr, derrière, je vais tout t'expliquer. Le dossier de l'UMA est très clair, limpide, sur une histoire pourtant qui est assez compliquée. Oh my god, je le connais. Je regarde, faites entrer l'accusé, il va passer dans son émission. non, mais il a supposé que ce soit avéré. Alors, c'est où ça? C'est parti. C'est une histoire de fou. Soupçon d'ingérence marocaine à BFM. Le Maroc Gate. Le 3 février dernier, lors d'une réunion avec des journalistes, Marc-Olivier Fogiel, qui est le directeur général de la chaîne, est revenu sur les raisons de la mise à l'écart de Rachid Barki, soupçonné d'avoir perçu des rémunérations en liquide pour diffuser des contenus échappant au circuit de validation. Quelle est l'accusation ? L'accusation, c'est que Rachid Barki, ce présentateur du journal de la nuit, je crois, la tranche de la nuit sur BFM, aurait accepté de l'argent liquide pour faire passer des infos à propos du Maroc sans les faire passer par le circuit décisionnel, de vérification habituel, rédaction en chef, etc., direction de la chaîne, quoi. Quand, pour vous expliquer, quand un présentateur d'infos comme moi donne une info à l'antenne, elle passe par un processus, quoi. On en parle ensemble avec l'équipe, avec les chroniqueurs avec qui je travaille, avec le rédacteur en chef. On dit, d'abord, on se dit de quoi on va parler ensemble. Hein, c'est pas, je ne décide pas tout seul. Mon rédacteur en chef ne décide pas tout seul, d'ailleurs. C'est vraiment un travail extrêmement choral, quoi. On en parle ensemble. Voilà. On parle ensemble des infos qu'on va mettre en avant. On parle ensemble de la façon dont on va raconter ces infos, l'angle. Voilà. On parle ensemble de la place qu'on va donner à une information. C'est des débats permanents, en fait, quoi. Là, ce qui est reproché à Rachid Barki, c'est d'avoir mis tout seul à l'antenne des infos sur le Maroc sans justement s'inscrire dans un travail d'équipe, quoi. Tout seul, donc sans avis de la chaîne, sans avis du rédacteur en chef, sans avis de ses collègues, hein, et des infos pro-régime, pro-Maroc, moyennant rétribution. Ça c'est l'accusation. Et c'est peut-être pas vrai. Ça, c'est l'accusation. Graceware, merci beaucoup pour ces 5 abonnements offerts à la COP. Figure emblématique de BFM, Rachid Barki, présentateur du journal de la nuit, n'était plus apparu à l'antenne depuis la mi-janvier, donc ça fait 3 semaines. Jeudi matin, le site Politico a révélé la raison de cette disparition. Une enquête interne le vise pour comprendre l'origine de contenu diffusé par la chaîne d'information en continu dans des circonstances troubles avec des images et des propos soustraits au circuit de validation habituel. Parmi les contenus incriminés, sur lesquels plane le soupçon d'une ingérence étrangère, un bref public reportage diffusé en juin 2022 est aussitôt remonté à la surface. Sur fond d'images promotionnelles, il rapportait la tenue à Dakhla, au Sahara occidental occupé, d'un forum économique rassemblant des investisseurs espagnols. Le journal espagnol El Confidencial faisait état au même moment de l'échec de cette initiative boudée par tous les patrons de grandes entreprises espagnoles invitées, tandis qu'une obscure femme d'affaires, seule participante espagnole, était élevée par les organisateurs au rang de chef de délégation. Le présentateur concluait son propos, moi j'ai vu les images, j'ai vu le commentaire, effectivement c'est une toute petite séquence, hein, sur le réchauffement des relations diplomatiques entre l'Espagne et le Maroc, facilité, disait donc Rachid Barki, par la reconnaissance espagnole du Sahara marocain. Sahara marocain, le problème, c'est que cette expression, elle est, comment dire, politiquement extrêmement connotée. L'expression Sahara marocain est au cœur de la propagande de Rabat, écrit l'Humanité, pour imposer le fait accompli de la colonisation au mépris du droit international, des résolutions de l'ONU qui reconnaissent le droit à l'autodétermination, hein, du peuple sahraoui qui estime que le Sahara et son territoire. Son usage équivaudrait donc d'utiliser l'expression Sahara marocain dans le contexte du conflit israélo-palestinien, par exemple, à celui de Judée-Samarie, le nom dont les colons baptisent des territoires occupés de Cisjordanie. Si les médias français parlaient, par exemple, dans leurs journaux de Judée-Samarie au lieu de Cisjordanie, eh bien, ce serait reprendre les mots des colons. L'Humanité estime que parler de Sahara occidental, eh bien, c'est un peu la même chose. Voilà. L'ONU ne reconnaît pas ce territoire, explique Exutoire exactement. Continuons. Aucun pays ne reconnaît la souveraineté de Rabat sur l'ancienne colonie espagnole dont le Maroc s'est emparé en 1975. Vendredi 3 février, donc là l'histoire, à BFM, lors d'une réunion avec les journalistes de la rédaction, le directeur général de BFM, Marc-Olivier Fogiel, a expliqué que parce qu'en fait, les infos viennent de BFM, hein, a expliqué que la direction de la chaîne avait été informée voilà un mois de la diffusion sur cette tranche d'information de la nuit, de contenu téléguidé depuis l'extérieur. Cette alerte a donné lieu à un méticuleux revisionnage. Ils ont repassé plein de, plein de journaux. Nous avons été massivement trompés. Ça a fait du mal à la chaîne, a déclaré Fogiel. Nous avons été trompés. Cela ne peut pas nous retomber dessus, insistait à ses côtés Céline Pigalle, qui est directrice de la rédaction. Voilà. Est-ce qu'à un moment, la direction se rend compte qu'il y a des infos problématiques, non validées, télécommandées par une puissance extérieure, moyennant rétribution, et qu'à un moment, eh bien, ça ouvre le parapluie en disant « Attendez, c'est pas nous, ça. C'est pas nous, ça. C'est pas nous, c'est un comportement individuel d'un journaliste. Bon. » Voilà. Interrogé par Politico, la parole à la défense, Rachid Barki a reconnu avoir utilisé des infos qui lui venaient d'informateurs qui n'ont pas forcément suivi le cursus habituel de la rédaction. Donc, bon, ça c'est un peu problématique, mais qui n'étaient selon lui toutes réelles et vérifiées. Je n'écarte rien, peut-être que je me suis fait avoir, a-t-il déclaré. Je n'avais pas l'impression que c'était le cas ou que je participais à une opération de je ne sais quoi, sinon je ne l'aurais pas fait, dit-il. La direction de BFM affirme ne rien comprendre aux arguments avancés par le journaliste pour s'expliquer et fait part de ses soupçons sur des rémunérations en liquide que le journaliste aurait perçues. Bon. Alors, deux éléments dans ce que je viens de lire. Bon, un journaliste qui dit « Effectivement, j'ai donné des infos qui n'ont pas suivi le cursus habituel de la rédaction », c'est problématique. Ça ne marche pas comme ça. Dans une rédaction, dans un journal papier, celui qu'on est en train de lire là, un journaliste, il n'écrit pas son papier tout seul dans son coin, il le met dans le journal et hop, c'est fini. Non. Il l'écrit, il le soumet à ses collègues de la rédaction, voilà, à un rédacteur en chef adjoint, un chef de service, économie, justice, etc. Et tout. C'est un travail collégial. Voilà. Et après, c'est relu par les secrétaires de rédaction. Enfin, c'est tout un processus, quoi. Ça marche aussi comme ça en télévision. Par exemple, le matin, les textes de la présentatrice de JT sont normalement relus par le rédacteur en chef, par le chef d'édition, par moi-même aussi. Voilà. Et puis, quand j'ai un doute sur une info, ça c'est une partie de ma responsabilité d'encoreman de la matinale, quand j'ai un doute sur une info, sur un chiffre, sur un bilan, sur une tournure de phrase, bref, eh ben, je m'en ouvre auprès du journaliste. Je dis, t'es sûr de ça? Est-ce que tu peux vérifier? Oui, d'ailleurs, parfois, on fait des erreurs, quoi, dans ce processus de vérification de l'info. Bon, c'est un travail humain, donc parfois, on n'est pas au top et parfois, on rate des trucs. Mais on corrige. Voilà. Mais un journaliste qui met tout seul à l'antenne des infos, en fait, normalement, ça n'existe pas, quoi. Ça n'existe pas. C'est pas comme ça que ça marche, quoi. Cyril Lux dit, vous, c'est préparé la veille. Non, les chroniqueurs préparent une partie de leur chronique la veille au soir et finissent le matin. Mais là, on parle de JT, de journaux d'information, donc évidemment... Les journaux du matin, ils sont écrits le matin parce que tu peux difficilement écrire des journaux du matin le soir. Sinon, ça va vite se voir que t'es pas tellement sur l'info, quoi. Voilà. Non. Donc voilà pour la défense de Rachid Barki. Si les faits rapportés sont exacts, ils sont graves, condamnables, a réagi la Société des journalistes de BFM, en espérant que l'enquête permettra de savoir comment de tels agissements ont pu se produire. Est-ce que un présentateur de JT sur BFM a accepté de l'argent, par exemple du régime marocain, pour dire des choses allant dans le sens du régime marocain sur l'antenne d'un média français? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dans ce cas-là, c'est gravissime. C'est inutile de le dire. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est un concours de circonstances? Est-ce que la direction de BFM a mal compris un enchaînement de circonstances qui ont amené à ces informations à l'antenne? Alors on verra ce qui va se passer dans le futur. En tout cas, il y a plein de questions qui peuvent se poser sur cette histoire. Par exemple, tout à l'heure, je lisais des commentaires de gens qui connaissent manifestement bien l'organisation de rédaction, qui disaient mais comment cette info a pu arriver à l'antenne? Par exemple, les infos données par Rachid Barki, là, elles sont illustrées par des images. hein, ce qu'on appelle un off. C'est-à-dire, c'est pas un sujet, c'est pas un journaliste à part qui fait un sujet qui est diffusé dans le journal, c'est le présentateur qui donne quelques infos sur 15-20 secondes qui sont habillées par une image. Comme le dit Joe à l'instant dans le chat, je ne comprends pas, il y a forcément une régie, ça se prépare à l'avance, ne peut pas à lui seul diffuser un contenu surprise. Oui, mais tu as raison. C'est-à-dire qu'à un moment, par exemple, il y a des images qui sont préparées, c'est pas lui qui monte les images. Normalement, c'est fait par un monteur, par un assistant chef d'aide ou par un chef d'aide ou par un autre journaliste. Donc, effectivement, c'est un peu bizarre. Voilà. Or, lui, il vient avec une info, mais il vient aussi avec des images. Voilà. Alors, est-ce que il demande finalement des images pour couvrir une actualité et que c'est sur son texte, le texte qu'il lit à l'antenne, qu'il arrive à glisser certaines informations? Ah, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Bon, moi, j'essaie d'avoir des infos de mon côté sur cette histoire que je trouve complètement folle. Et j'entends que, par exemple, bon ben, voilà. Une des questions qui se pose, est-ce qu'il y a un rédacteur en chef la nuit sur BFM? Est-ce qu'il y a un rédacteur en chef la nuit sur BFM? Hein. Moi, j'ai travaillé dans des petites rédactions parfois, ou à certaines heures, parce que les enjeux d'audience étaient moins importants. Hein. Notamment le soir tard ou la nuit, il y a moins de moyens, l'équipe elle est réduite. Moi j'ai travaillé sur iTélé à une époque, donc qui est l'ancêtre de CNews. J'étais présentateur du journal du soir qui était rediffusé la nuit. Il n'y avait pas de rédacteur en chef. J'adorais d'ailleurs parce que du coup c'est moi qui décidais de tout, de l'ordre des sujets, etc. J'étais mon propre petit patron. Alors je travaillais avec j'avais un chef d'édition, j'avais des journalistes qui travaillaient avec moi, donc on faisait pas n'importe quoi. Mais en fait c'est pas qu'il y avait pas de rédacteur en chef, c'est que j'étais le rédacteur en chef, en fait c'était super bon, mais du coup par manque de moyens j'avais pas de supérieur avec moi, quoi. Donc peut-être que là il y a pas de rédacteur en chef, je sais pas, par exemple. Hein, peut-être que justement Rachid Barki avait, ce comme le dit Wissem, ce poste de rédacteur en chef. Peut-être pas le titre, mais dans les faits, peut-être que c'était lui qui choisissait justement la construction de ses journaux. Moi, je l'ai fait, ça m'est arrivé, ça, dans ma carrière, donc c'est possible. Voilà. L'article cite ses propos, oui, l'article cite les propos de BFM et cite les articles du journaliste. Voilà. Zvrin 17 dit BFM est aussi responsable si cela a pu se produire. Je ne suis pas un spécialiste du droit des médias, mais normalement le diffuseur est responsable de ce qu'il met à l'antenne, quoi. Donc oui, ce que dit Zvrin n'est pas faux. Normalement le diffuseur est responsable de ce qu'il met à l'antenne. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que les critiques sont aussi dures venant de la direction contre le journaliste, en mode on y est pour rien, quoi. Mais je pense que le diffuseur a une forme de responsabilité. Ouais. Dionysos, merci pour le 4e mois d'abonnement. Zoro Rifiano dit qu'un État paie pour faire la promotion de sa politique, ça ne me choque pas, mais qu'un journaliste français accepte, c'est choquant. Oui, bah oui. 2000%. 2000%. Je remonte dans le chat. Est-ce qu'il a nié le présentateur? Ben, aventurier, je viens de vous lire ses propos, en fait. Lui, dit que, effectivement, ce sont des infos qui n'ont pas suivi le circuit traditionnel de validation. Je lis ces mots. Hein. Rachid Barki, il a été interrogé par Politico qui a bossé là-dessus, il dit, ces informations me venaient d'informateurs et ces informations n'avaient pas forcément suivi le cursus habituel de la rédaction. Donc il reconnaît que c'est, bon, ça venait un peu de l'extérieur, quoi. Et, voilà. Mais que lui les avait vérifiées, ces infos. Il dit, je me suis peut-être fait avoir, mais j'avais pas l'impression que c'était le cas. Voilà ce qu'il dit. Sachant que la question du Sahara occidental est un sujet brûlant, quoi, dans cette zone, quoi, dans cette région. Alors, bonne question de Réglisse sans sucre, je me suis posé la même question. Comment BFM TV peut savoir que le journaliste aurait reçu de l'argent liquide? À un moment, dans le papier, là, c'est marqué. C'est une citation même. La direction fait état de ses soupçons sur des rémunérations en liquide que le journaliste aurait perçues. Par définition, une rémunération en liquide, c'est totalement invisible, non ? Alors ça, je me suis posé la question aussi. Bon, plein de questions sur ce sujet. C'est-à-dire, comment BFM sait qu'il y aurait eu des versements d'argent liquide ? Liquide, c'est... Là, t'as envie d'en savoir un peu plus, quoi. Bon, moi, ce que je regarde dans cette histoire, j'espère qu'on connaîtra d'abord le fin mot de cette histoire. Voilà. J'espère surtout que ce confrère n'a pas fait ça. Voilà. Je le connais pas personnellement, je l'ai croisé une fois dans un aéroport. Au Maroc, puisque je crois que Rachid Barki est d'origine marocaine. Il est super sympa. Voilà. J'espère qu'il n'a pas fait ça. Parce que c'est grave pour lui, c'est grave pour notre profession. Et j'espère apprendre dans les prochains jours que tout ça est un énorme malentendu. Voilà. En tout cas, on va suivre cette affaire, bien sûr. Voilà. Et voilà. Là, on a un truc un peu en instruction. Voilà, à un moment, soyons prudents par rapport aux responsabilités des uns et des autres et attendons de voir ce qui va sortir dans quelques jours. En tout cas, c'est une affaire quand même très, très étrange. Je lis encore un ou deux messages et puis c'est presque fini. C'est un petit stream, hein, on est à 2h37. Mais j'ai une grosse journée avec plein de trucs à venir, quoi. Est-ce qu'il y a une réaction de l'ARCOM ? J'ai pas vu de réaction de l'ARCOM là-dessus. Mais l'ARCOM, bah, normalement, devrait réagir, ouais. C'est clair. En tout cas, je ne sais pas si ce genre d'affaires, il y en a eu beaucoup ces 29 dernières années. Je prends cette perte de temps parce que je suis journaliste depuis 29 ans. Mais moi, c'est la première fois en 29 ans que j'entends parler d'une histoire de ce type. Pourtant, je lis tout ce qui peut se lire sur l'actualité des médias parce que la façon dont on travaille, moi, me passionne. C'est la première fois que j'entends parler. La première fois que j'entends parler d'une histoire d'un journaliste qui aurait accepté de l'argent là d'un État, mais de, je sais pas moi, ça pourrait être d'une entreprise ou de n'importe quoi, pour donner de fausses infos à l'antenne. C'est la première fois que j'entends ça. Je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres histoires, c'est la première fois que j'entends parler de ce truc. C'est quand même rarissime, quoi. Jérôme 17 me dit ça doit arriver souvent pourtant. Non, tu peux pas dire ça. Tu peux me dire, ah Samuel, c'est faux, rappelle-toi, il y a 2 ans, ou il y a 10 ans, il y a 15 ans, voilà, il y a une enquête, ça a été prouvé, etc. Tu peux pas dire, on n'est pas sur le mode, ah mais si, mais ça doit, je pense que... Non, c'est pas... Ici, on pense pas que des choses se produisent, on les constate et on dit, voilà, c'est bien, c'est pas bien, mais on se dit pas, je pense que... Non, il faut citer des histoires, des faits. Comme cette histoire qui est incroyable. En train de vous lire. Ok. Broubrou. Broubon envoie des bits et se félicite de la victoire de Nice. On finira avec le sport rapidement. Nice, les aiglons qu'on fait une perf quand même d'aller battre Marseille sur au Vélodrome, en plus au stade Vélodrome 3-1. Voilà. C'est dommage pour l'OM parce qu'on a, on a quand même un championnat de Ligue 1 qui est assez passionnant. Bon, là vous avez les premières pages sont consacrées à la victoire limite de justesse des Français dans l'ouverture du tournoi d'assignation contre l'Italie, qui est clairement pas l'équipe la plus impressionnante, qui est sans doute même la plus faible normalement sur le papier de ce tournoi d'assignation. Et donc ça a été très très chaud pour les Français. Ils ont quand même le bonus offensif, mais c'était compliqué. Oui, je dis c'est dommage pour l'OM parce que du coup le PSG prend un tout petit peu d'avance alors que c'était très très serré il y a encore quelques jours. Un PSG en tête avec 54 points désormais, Marseille 46 points après cette défaite au stade Vélodrome devant Nice. Je crois que Lens a gagné ou quoi du coup Lens, non, match nul contre Brest, donc 1 point, 3ème, Monaco 4ème, Rennes battu aussi par Lille je crois, donc combien, 40 points désormais. Voilà. Donc là c'était très très, le PSG sentait le souffle de ses poursuivants ces dernières semaines, et là un petit peu moins. Sinon vous voyez, donc on a la défaite des Italiens mais de justesse face à la France. Les Italiens qui ont mené devant la France quand même en rugby, c'est énorme. Nat, merci pour ce prime, c'est adorable. Et puis Teddy Riner qui rassure parce qu'il a gagné le tournoi de Paris, qu'il a déjà rencontré, je ne sais plus, 7 fois ou 9 fois, je ne sais plus. Riner qui se prépare pour les Jeux Olympiques de Paris. Il rêve d'une nouvelle couronne aux Jeux Olympiques de Paris. Il y en a qui dénoncent l'arbitrage du rugby parce qu'il paraît que l'arbitrage n'était pas top. De Rennes, vous parlez? Non, Rennes, je ne sais pas ce qu'ils ont fait à Rennes. Non, Rennes. Lille a battu qui? My Little Trip dit Lille a battu qui? Je sais pas. Rennes, ils ont perdu? Je sais pas. Non, je suis pas au courant. Non, non. Rennes, ils ont pas perdu. Ils ont... Non, je sais pas. Non, je suis pas trop au courant, non. Non. Rennes, je suis surtout au courant de Rennes quand ils gagnent. Et en fait, c'est marrant, les infos de défaite de Rennes ne parviennent pas jusqu'à mes oreilles. Même pas jusqu'à mon cerveau, en fait. Voilà. Donc, je sais pas du tout ce qu'a fait Rennes ce week-end. Merci. Eden Blaster, merci pour les beats. Voilà. Non, je ne sais pas. Rennes, non, je sais pas du tout. Non, Denis, c'est juste que j'ai pas fait. Je suis pas allé voir le résultat en fait. J'ai pas eu. Non, je sais pas. Non, ils ont dû gagner, je pense. Enfin, je sais pas, je suis pas allé voir. Voilà. c'est court. C'est 2h42, c'est un petit stream, mais j'ai une bonne raison. J'ai une bonne raison parce que là, après juste vous avoir quitté, je me mets sur l'ordinateur, je prépare le stream de ce soir. Pas sur ma chaîne. Moi, je reçois plus de politique sur ma chaîne. C'est finito, ça. Voilà. France Info m'a demandé d'animer un stream ce soir sur la chaîne Twitch de France Info, hein, la chaîne où vous retrouvez Manon tous les soirs à 18h pour un débat sur l'actu. Eh ben, ce soir, après Manon, à 19h, donc après le talk, à 19h, eh bien, Papy Sam prend la main sur la chaîne Twitch de France Info pour vous faire un stream, donc pas sur ma chaîne. Hop, je vous montre le visuel. Mais hop, sur la... Pourquoi j'ai de la musique? Ah, ils ont mis de la musique sur le visuel là. Mais pourquoi? Pourquoi il y a de la musique sur le visuel? Mais pourquoi? Ok, on va arrêter ça. Hein. Donc, j'anime ce soir ce stream. Voilà. Olivier Véran est l'invité de France Info. C'est à 19h sur la chaîne Twitch de France Info, pas de France Télévisions. Et donc Olivier Véran, c'est le porte-parole du gouvernement. Et on a quelques questions à lui poser sur la réforme des retraites, ou plutôt vous avez... des questions si vous êtes là ce soir à poser sur la réforme des retraites à Olivier Véran. Je suis avec Christelle Méral que vous voyez ici, qui est une excellente journaliste politique de France Télévisions que je connais depuis longtemps. Voilà. Donc ça c'est ce soir à 19h, donc là juste après le stream je vais préparer un petit peu ça. Ensuite à 14h j'ai une vie passionnante, je passe une tête à l'AG de mon immeuble, voilà, auquel je peux pas participer parce que j'ai oublié que j'avais des trucs cet après-midi. Donc je passe une tête, je donne mon pouvoir, j'ai une vie passionnante. Ensuite, je pars à TF1 à partir de 15h pour une série d'enregistrements, un petit truc surprise. Voilà. Je bosse pas pour TF1, mais je suis invité de trucs. Voilà. Jusqu'à 17-18h. 18h, je file à France Télévisions pour animer ce stream. Bonne journée. Voilà. C'est pas la semaine qui pique, mais c'est la journée qui pique quand même. Voilà. Donc c'est pour ça que je pousse pas trop ce stream et qui va donc s'arrêter maintenant. Mais sinon, on se donne rendez-vous à 19h sur la chaîne Twitch de France Télévisions si ça vous intéresse. Non, bah du coup, pas de sieste. Pas de sieste. Oh oui, ça va être dur aujourd'hui. Ouais, c'est pas grave. On s'amuse. Qu'est-ce qu'on fait? Ah oui, on fait un raid. N'hésitez pas, c'est parti, à me proposer comme tous les jours des noms de streamers, de streameuses qui sont en live actuellement et on va tous aller voir bien cette chaîne que vous allez me proposer maintenant, plutôt une chaîne qu'il faut encourager, pas forcément un gros streamer ou une streameuse avec une forte communauté déjà ou une forte audience. Non, pas du tout, j'ai pas oublié l'horoscope. Si, j'ai oublié l'horoscope. Allez, demain on fera un double horoscope. Non, on peut pas raid ma chaîne, sinon ça m'oblige à continuer le stream et c'est pas possible. Donc double horoscope demain, et puis faites-moi une propale maintenant, je vous mets 2 minutes de musique, chrono. Et dans 2 minutes, à partir de vos propositions, et c'est toujours sympa, eh bien on raid. La musique, c'est ça. 2 minutes, pas une seconde de plus. À tout de suite. Et on va être dans 40 secondes, pile poil. À tout de suite. Et on va être dans 20 secondes. Et c'est bon les amis, vous savez que je raid plutôt des streamers qui n'ont pas encore beaucoup d'audience pour les aider. Je fais une exception parfois, et pas souvent, et vous le savez, pour les streamers qui sont déjà installés, qui ont déjà des belles communautés, qui font des belles audiences, voilà, je le fais quand j'aime beaucoup le streamer en question. Donc je le fais pas souvent, mais là je le fais. Voilà, hop, le raid se prépare, puisque nous allons rejoindre plutôt l'ami Rivenzi, Rive qui en plus, qui va venir bientôt à la maison, dans l'hebdo Étienne pour sa deuxième participation, Rive qui en plus est en train de commenter l'actualité sport de ce week-end, que je ne vous ai pas beaucoup développé. Bel enchaînement, hein. L'actu sportive du week-end avec Rive, c'est un passionné de sport, notamment, c'est un passionné d'histoire aussi, c'est un passionné de plein de choses, Rive, et bien c'est l'actualité sportive du week-end, c'est maintenant, c'est avec Rive, le raid, pardon, 5, 4, 3, 2, 1, Bonne journée, soyez heureux, rendez les autres heureux autour de vous. À demain pour la matinée Étienne. Peut-être ce soir aussi à 19h sur la chaîne Twitch de France Info. Ciao, ciao. À demain. Lui posez pas de questions sur Rennes par contre.